vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Le son incertain » qui a été prêché le 18 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana, USA.
Bonjour les amis, je suis de nouveau si heureux d'être à l'église ce matin après avoir passé la semaine à remettre à tout instant au diable mon rhume. Vous savez, chaque fois qu'il voulait me le donner, je le lui refilais. Et on est encore à se battre. Je suis simplement déterminé à ce qu'il le garde, voyez. Chaque fois qu'il me le donne, je le lui refile. Il me le donne et je le lui refile. Enfin, il sait comment faire, vous savez, il a du métier. Mais on l'a finalement épuisé, ou plutôt on a épuisé sa patience, comme je l'ai expliqué l'autre soir. Quelqu'un pour qui j'avais prié m'a dit, « Le diable m'a dit que je n'étais pas guéri. » Il a dit, « Je voyais bien que tous mes symptômes persistaient. » Et il a ajouté, « Puis j'ai dit, « Satan, c'est vrai, je ne me sens pas mieux, mais tu sais quoi, je vais continuer à témoigner de toutes mes forces pour la gloire de Dieu jusqu'à ce que mes symptômes s'en aillent. Mais si tu veux rester à mes côtés et m'écouter témoigner, t'as beau. » C'est là une vraie foi, témoigner à la gloire de Dieu, parce que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, vous voyez. On ne voit pas la foi, vous croyez, c'est tout. Et cette semaine, j'ai été pas mal occupé à la maison. Lundi, en effet, il y en a eu, je pense, pas moins d'une trentaine. Et puis, ça a été toutes mes entrevues et ce qui va avec ça. Ça a été une semaine très occupée. Et j'ai aussi appris quelque chose, j'ai un ami ici en ville, c'est un très chic type, il est médecin. Lui et moi, on allait à la même école. Il s'agit du docteur Sam Adair, et c'est un homme tout simplement sympathique, et je ne l'avais pas vu depuis environ 4 ans. Et cette semaine, on s'est entretenu pendant 3 ou 4 heures. On est allé à son bureau, on a verrouillé derrière nous et on a discuté. Et je lui racontais des choses que j'avais découvertes en rapport au spirituel, sur les puissances du mal et leur façon de s'introduire. Lui m'en donnait le diagnostic en termes médicaux, et c'était étonnant de voir l'exactitude des 2 rapports. Donc il me parlait d'un certain mucus qui pénètre dans l'être humain, d'où l'homme n'a pas à transporter le rhume, disons autre chose. Ce n'est qu'un mucus qui pénètre, et ensuite, ce mucus produit le germe. J'ai dit, eh bien, si le mucus produit le germe, alors j'aimerais savoir d'où vient la vie du germe. Alors il a dit, eh bien, nous ne sommes évidemment pas au courant de ces choses. On ne sait tout simplement pas. On attrape froid ou quelque chose comme cela, et ce germe-là se transforme, il a un moyen de se multiplier, et il ne cesse de produire des germes de ce mucus, je pense. Un docteur ou une infirmière aurait une meilleure compréhension de tout cela. Mais ce qui m'intéressait, et sur quoi je fixais mes pensées, c'était ce qui touchait à ce germe proprement dit, à la vie de ce germe. À l'intérieur de ce petit bouchon qui ressemble à une petite capsule, si menue que l'œil ne peut la voir, mais à l'intérieur de cette minuscule chose que seul un puissant microscope peut voir, à l'intérieur se trouve une vie. Et qu'est-ce qui fait que cette vie s'empare de ce mucus et l'enveloppe et produit cette capsule, voyez-vous, ou ce germe? C'est le diable, c'est une puissance spirituelle. Ça, ils ne seront jamais capables de le voir. Ils sont parvenus à voir ce qui est encore plus infime qu'une molécule, ce petit globule, et ainsi de suite, et cette petite muqueuse qui ne peut être aperçue que par un puissant microscope. Et puis, mais, ils ne peuvent voir au-delà de cela, parce qu'il n'y a pas de substance palpable sur laquelle se poser. Il y a des gens debout. Charlie, j'aime donc pas te voir debout, et David, et Rodney, et vous tous là. Vous prenez tellement bien soin de moi quand je vais chez vous, et je ne peux pas vous donner une place assise dans la maison de Dieu. Oh, mais je vais vous dire ce que je vais faire. Si vous veniez ici, celle-ci est à moi. Montez ici et sentez-vous chez vous. Si l'un d'entre vous veut venir prendre cette place, c'est libre. Vous êtes plus que les bienvenus. C'est une bonne chaise. Au fait, ce n'est pas à moi. C'est à Monsieur Wilson, le directeur d'école. Je l'ai depuis 1937. C'est la plus vieille, quoi. Il était ici il n'y a pas longtemps et m'a dit, « Hé, t'as encore mes chaises ?» J'ai dit, « Je m'assois toujours dessus juste avant de prêcher. » Et il a repris, « Eh bien, faut dire qu'elles sont entre bonnes mains. » Vous êtes les bienvenus. Il y a une place ici. Et puis, si vous voulez venir ici où sont assis les enfants, faudrait pas que cela vous embarrasse maintenant. On ne vous prendrait pas pour un jeune enfant, vous n'en êtes pas un. Ici aussi, il y a une place. Et il y en a une autre là. Comme ça, vous serez capables, particulièrement quelques-unes des dames qui sont là. C'est gentil de rester debout comme ça. Merci. On aimerait que vous veniez vous asseoir ici. Ce serait très bien. Et Charlie, je pensais que tu étais venu par ce côté-ci. Je passe mon temps à le taquiner. Je lui ai dit, monte à l'église. J'essayais de le faire venir ici me visiter. Et puis je lui ai dit, quand tu vas venir, je vais annoncer, ce matin, le docteur Charlie Cox va nous apporter le message. Et puis je vais me retirer. Et il m'a dit, je vais m'évanouir. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Aussi avant que je l'appelle, il s'est sauvé dans la pièce arrière, voyez. Aussi, avant de commencer notre leçon, je pense que la semaine dernière, le Seigneur nous a bénis. Avez-vous aimé le... La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Oh là là, des mains levées partout, même que ce message est rendu en Californie. Hier soir, on appelait de là-bas à ce sujet. Et là, ils veulent se fixer et avoir la même chose en Californie au mois de janvier prochain, vous voyez. Le Saint-Esprit semble simplement frapper du même coup là-bas à Shreveport. Et ça va d'un lieu à l'autre comme cela. C'est l'heure de la révélation. Aussi, nous nous réjouissons et sommes pleins de confiance de voir notre propre groupe ici, du tabernacle, qui prospère grandement par ceci, en voyant la manifestation de Dieu parmi nous. Nous nous en réjouissons et nous croyons que nous sommes à cette heure glorieuse où l'Église est appelée à sortir et à mettre les choses à l'ordre. J'ai découvert quelque chose pendant que je discutais avec mon bon ami Dr Adair à son bureau. Il a dit, on parlait de différentes choses concernant les rayons X, les mauvais rhumes, les différents germes. Il fouillait dans ses livres et me montrait à travers eux ce qu'il avait découvert. Il a dit, je vais te dire Billy, pour un rhume et pour bien des choses de ce genre, on n'a rien pour ça. J'ai dit, j'ai toujours pensé que lorsqu'on a la gorge irritée, d'utiliser un liquide pour se gargariser. J'ai dit, après une prédication, quand je reviens à la maison, j'ai la gorge un peu enrouée et je me verse du Lavoris et je me gargarise. J'ai dit, on utilise ce rince-bouche depuis des années à la maison. Il a dit, une eau fraîche ferait tout aussi bien l'affaire. Vous voyez, il a dit, parce que ne va jamais croire qu'un rince-bouche peut te faire du bien, parce que tout ce qu'il pourrait faire serait de te débarrasser des germes qui sont dans ta gorge. Ça n'atteindrait pas les veines. Si c'était le cas, ça ferait éclater ta gorge et tu aurais une hémorragie, tu vois. Il a dit, non, ça ne peut pas t'aider. Ainsi, le vieux dicton revient à nouveau. Le médicament est fait pour être vendu, pas pour être pris. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Et après tout, je l'ai lu aussi des livres de médecine que j'ai à la maison. Je suis intéressé par la médecine, certainement, en tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider l'être humain. Si c'est la paix, en étudiant des termes se rapportant à la paix, je suis intéressé en cela. Je suis intéressé d'avoir une meilleure communauté dans laquelle vivre. Je suis intéressé d'avoir de meilleures écoles où envoyer nos enfants. Je suis intéressé dans tout ce qui est bon, sain et droit. Et la médecine a fait de grandes choses. Je crois que Dieu l'a utilisée dans bien des situations. Je crois que si nous étions plus sincères et plus consacrés à Dieu, il y aurait déjà des remèdes contre les cancers et tout le reste. Dieu a le remède, si seulement nous le lui demandions. Vous voyez? Lui demander. Et je crois que la raison pour laquelle le vaccin Salk a été trouvé, c'était de voir des petits-enfants souffrir comme ils souffraient. Et Satan, cette méchante chose aux aguets, paralysait ces petits-enfants et tout. Et Dieu a permis qu'ils soient découverts pour le traitement de la maladie. Cela a été d'une grande importance et pour laquelle nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes simplement si reconnaissants que Dieu nous ait ainsi bénis. Et frère, il ne s'en retourne pas chez lui, n'est-ce pas, Sœur Nash? Sœur Nash dit, non, il va chercher quelques chaises, note de l'éditeur. Oh, c'est très bien, très bien. Maintenant, quand je suis revenu à la maison, je me suis assis dans une pièce et j'ai étudié longuement. Qu'est-ce que tout cela, me suis-je demandé? Je vais vous en parler un peu sur ce que j'étudie pour que vous étudiez avec moi. Et le Seigneur, quand nous étions dans la pièce, je considère que c'était bien lui en raison des grandes expériences que j'ai eues avec lui. Mais savez-vous qu'après que le docteur m'eût dit cela et qu'il me l'eût montré d'un bout à l'autre des livres de médecine, des choses que je sais qu'ils viennent à peine de découvrir, il y a un docteur parmi nous ici de toute façon qui m'écoute. Maintenant ceci est la dernière et la meilleure trouvaille qu'il y ait pour un rhume. Ils n'ont pas de remède. Ils condamnent l'aspirine et ainsi de suite. ça ne fait qu'apaiser le malaise qu'occasionne le rhume, mais ça ne touche pas le rhume en tant que tel. Ça vous aide toutefois à vous reposer, et ce qu'il y a de mieux pour un rhume, c'est de se coucher et de dormir, de relâcher, de simplement s'étendre dans un lit. C'est à peu près ce qu'il y a de mieux à faire. Là ensuite, j'ai dû étudier, j'ai dit, docteur Sam, alors ceci et ceci, pour un rhume, le mieux à faire, c'est de se reposer. Il a dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout. J'ai dit, eh bien, merci, docteur, c'est joliment intéressant. Puis nous avons discuté encore un peu, et je suis rentré à la maison. Je lui ai dit, il aime le lièvre et l'écureuil. On avait l'habitude de chasser ensemble quand on était jeunes, de pêcher plus particulièrement. Aussi, quand je suis rentré, j'en suis arrivé à me dire, qu'est-ce ? Vous savez, j'ai remarqué les animaux. Quand un chien tombe malade, il va boire un peu d'eau, puis il va s'étendre quelque part. Eh bien, la conclusion m'est ensuite venue le lendemain, alors que j'étais encore au lit, en attendant que les enfants se lèvent. Ils se lèvent aux environs de 6h30 et moi vers les 4h30 ou 5h. J'étais couché, je réfléchissais. Souvent Dieu révèle des choses, vous savez, je n'enseigne pas ceci, mais saviez-vous, l'homme au commencement, quand Dieu l'a créé, il ne l'a pas créé pour être traité par les médecins. Il avait cela en lui, il était équipé, il était lui-même une unité de soins, voyez. Et puis la guérison ne vient d'aucune source extérieure, elle doit venir de l'intérieur. Maintenant, on peut recevoir une aide extérieure pour tuer les germes ou toutes autres choses dans notre organisme. On peut avoir une greffe de la peau ou l'ablation de l'appendice ou l'extraction d'une mauvaise dent, mais la guérison ne vient pas d'une chose que l'on applique. La guérison ne vient que par la puissance qui est en vous, qui reconstitue à nouveau les tissus affectés. Et par conséquent, la guérison est en vous. Maintenant, écoutez bien et réfléchissez profondément avant de faire vos commentaires. L'homme, au commencement, quand il a été créé, un homme est un Dieu. Il est absolument un Dieu car il a été créé à l'image de Dieu, étant un fils de Dieu, et il est un héritier de tout ce que Dieu est. Et il lui a été donné un domaine, et ce domaine était la terre. Vous avez la puissance sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout. Il parlait, tout lui obéissait, parce qu'il était en lui-même un Dieu. Pas le Dieu universel, c'est-à-dire le Dieu des cieux et de la terre, mais il était un gouverneur sur son domaine. Il était un roi gouverneur. C'était l'homme. Et même en ce moment, dans son état déchu, il en a encore l'apparence. Il n'y a pas si longtemps, ils essayaient de faire des croisements, et ainsi de suite, et ils disaient que l'homme venait d'animaux inférieurs et que par l'évolution, il s'était mis sur ses pieds. Bon, vous voyez, ils en sont venus à démontrer la fausseté de leur propre théorie à force de jouer avec la science. Il n'y a rien que vous puissiez croiser qui parviendra à une plus haute évolution. Ça n'avancera rien, c'est impossible. Du maïs hybride ou toute autre chose ne peut pas se reproduire. Ou, comme je le disais l'autre jour, l'âne et la jument peuvent être accouplés et donneront un mulet, mais ce mulet ne pourra pas se reproduire. Cela doit revenir directement au commencement, parce que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Maintenant, quand nous avons été créés, récemment, ils ont découvert que votre corps est plein de lumière. Le rayon X le prouve. Le rayon X ne possède pas sa propre lumière. Il emprunte de vous cette lumière. Vous naissez avec 4 rayons. Après un certain temps, disons 20, 25 ans, un rayon disparaît. À 35, un rayon disparaît. Ou à 40 ans, un autre disparaît. Et finalement, quand vous passez les 65 ans environ, vous vivez de votre dernier rayon. Et chaque fois qu'on vous prend un rayon X, ces rayons sont démolis. C'est pourquoi on n'a plus... Vous mettiez les pieds de ces jeunes dans ces machines et ça ne faisait qu'arracher les rayons de leur petit corps. Et c'est de la lumière cosmique qui est en vous, dont vous êtes fait plein de cellules de lumière. Ça, c'est de la lumière cosmique. Mais Dieu est d'une lumière différente. Cependant, il est lumière. Je pense maintenant à la photo qui est une grande preuve de ce que je me prépare à dire, que Dieu est lumière. Et quand nous marchions dans la lumière de Dieu comme fils de Dieu, Dieu n'est pas de la lumière cosmique, mais la lumière de Dieu opérait à travers la lumière cosmique de nos corps, de nos cellules. Nous étions absolument, à un moment donné, de réels et authentiques fils de Dieu. Mais ensuite, quand la chute est venue, les fruits de l'esprit aujourd'hui sont l'amour, la joie, la foi, la longanimité, la douceur, la gentillesse, la patience, tout surnaturel. C'est parvenu au point où tout le corps, graduellement, comme les algues que l'on trouve dans les fonds marins. Il arrive souvent que les plongeurs se prennent sous ces algues, et avant de s'en rendre compte, ils sont enveloppés de telle manière par ces algues qu'ils ne peuvent plus s'en déprendre. Eh bien, c'est ce que le péché a fait de l'être humain, c'est ce que la froideur a fait de l'Église, c'est ce que les communistes ont fait de la nation. C'est si sournois. Et puis ça a enveloppé le corps humain et ça a poussé à l'extérieur cette lumière de Dieu. Par les dénominations et le reniement de la foi et ainsi de suite, cela a poussé à l'extérieur tous les rayons de la grande puissance de foi de Dieu, vous voyez, qui est en nous, qui devrait être en nous. Il a poussé à l'extérieur tous les rayons au point que l'on ne s'en tient plus qu'à une loge. Et là maintenant, c'est en deçà de la loge qu'on trouve l'Église, parce que toutes les ténèbres font pression sur elle. Et on l'entendra même dire, ça ne se produit pas, niant que les miracles de Dieu peuvent se produire, vous voyez? Et cependant l'homme, quelque part au fond de lui, quelque part en lui, si seulement il laissait cette petite, comme je l'ai illustré, comme un bouton, quand un homme est sauvé, ce peu de lui est Dieu. C'est la petite lumière qui entre pour lui faire cesser ses mauvaises actions. Si maintenant vous pouvez ôter de lui toute la malice et l'envie et les soucis et l'incrédulité, ce petit semblant de bouton de la lumière et de la puissance de Dieu continuera à grandir et grandir et grandir et grandir, poussant dehors l'incrédulité faute de place. Et ce n'est pas par des exhortations, par l'exercice corporel. Vous le faites par une vie sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit fait agir à travers vous. J'ai compris un peu de cela au point où il n'y a pas longtemps, combien de vous se rappellent la fois où Elish Perry a été ressuscité des morts? Il y en a quelques-uns de ce côté-ci. Vous l'avez lu dans le journal. Bien des fois, j'ai vu que Sir Wilson et d'autres avaient levé leurs mains. J'étais là quand l'homme est mort. Il reste pas loin d'ici à présent. Il vient à l'église de temps à autre et en témoigne. Il est demeuré mort durant plusieurs heures. Il est mort d'hémorragie des poumons et baigné dans son sang. Et je me suis éloigné et je n'étais qu'un jeune prédicateur en ce temps-là. Et Sir Jackson venait alors ici à l'église. Et la femme d'un prédicateur méthodiste, j'oublie le nom de son mari maintenant, Schaeffiner, frère Schaeffiner et sœur Schaeffiner, ils avaient un lien de parenté avec les Wise Heart. Elle était à son chevet et je me préparais à partir. Le sang lui coulait de partout, il en était mort. Ses yeux étaient révulsés et sa gorge était enflée et ils ont couvert sa tête d'un drap. Sa femme était là, il pleurait et il tentait de trouver des adresses pour appeler les amis. Et comme je m'éloignais du lit, j'ai senti quelqu'un poser sa main sur moi. Je croyais que c'était Sir Schaeffiner. Et quand je me suis tourné, il n'y avait personne près de moi. Cela m'a laissé quand je me suis tourné. Et frère Elijah était tendu la mort. On avait été de très bons compagnons. On allait pêcher ensemble à la rivière. Vous savez tout ce qu'on a fait ensemble. Et il s'est fait frapper ici sur une voie ferrée. Ça lui a écrasé les poumons. Il saignait. Il saignait à contracter la tuberculose suite à cela, et il est mort. Et comme je m'éloignais de ce côté, j'ai de nouveau senti cette main, je me suis tourné. Il a retiré sa main de moi, et avant de me rendre compte de ce que je faisais, j'étais étendu sur l'homme, mes lèvres contre ses lèvres. J'étais tout aussi plein de sang qu'il l'était, étendu sur cet homme, et j'implorais Dieu, et j'ai senti quelque chose près de mon oreille. C'était sa main, et vous l'avez entendu ici même en témoigner, vous voyez. Et il est revenu à la vie. Ça se passait il y a environ 25 ans, peut-être 30. Il habite là, dans la courbe. Il est venu en témoigner à l'église il n'y a pas longtemps. Bon, c'est cette fois-là où le Canada a appelé pour savoir. J'en avais parlé au Canada quand j'ai commencé mes réunions. Ils ont téléphoné à M. Coutts, l'entrepreneur des pompes funèbres, pour lui demander s'il n'y avait pas eu un homme qui était ressuscité au salon funéraire qui était mort. J'ai encore les coupures de presse. Ils ont dit, on a entendu parler de plusieurs miracles qui s'étaient accomplis. Monsieur Coutts avait répondu, Monsieur Branham est un ami personnel et toutes sortes de choses se sont produites. Mais il n'est aucune mention d'une personne qui serait ressuscitée des morts, en particulier dans ce salon funéraire. Les Canadiens l'avaient mal interprété et le lendemain, eh bien, cela faisait les grands titres. Il a dit, des centaines de personnes ont appelé de partout. Et frère Perry lui-même témoignait de la résurrection de son corps et contestait la chose qu'on avait dite dans le journal. Là, on a compris que ce n'était pas au salon. Cela s'était passé chez lui et c'est là qu'il était mort. On ne l'avait pas encore transporté au salon funéraire à ce moment-là. Puis j'ai lu l'autre soir où Irénée, je crois, ou plutôt Saint-Martin, s'était étendu sur le corps de son ami après la pendaison de celui-ci. C'est là, de l'histoire, il s'était étendu sur lui durant une heure et l'homme était revenu à la vie. Et je vois dans la Bible où Élie s'est étendu sur le corps d'un enfant mort et il est revenu à la vie. Je pense au petit garçon en Finlande, alors qu'il était étendu sur le sol, mort, sur le bord de la route. Là aussi, il y a environ 2 mois, je crois, Jean, dans le Newsweek, qu'à Londres, ils ont laissé agir les guérisseurs divins, comme ils les appellent. Ils les ont laissés aller prier pour les malades, et il y eut environ 80% plus de guérison qu'il y en a par la médecine. Cette prière pour les malades. Le Reader's Digest en a parlé. Et en Amérique ici, c'était écrit dans le Reader's Digest où on s'était interrogé sur la guérison divine. Ils ont demandé à un frère de prier pour un malade qu'on lui avait emmené et il a prié pour lui. Et puis ils ont placé une feuille d'aluminium. Nous savons tous que la feuille d'aluminium réfléchit ce rayon entre le malade et la main du frère qui priait et ils en ont pris une radiographie. Et de la main de l'homme se voyait la réflexion d'un rayon qui sortait de sa main et qui allait vers l'autre homme. Vous voyez ? C'est exact. Dieu savait ce qu'il disait quand il a dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». L'imposition des mains de cet homme sur un malade et le rayon X mécanique, oh Dieu, montrait la lumière qui venait de la main de l'homme. Comment les gens peuvent-ils être si stupides de dire que la guérison divine n'existe pas, voyez ? Et quoi, même les appareils, ces machines que la science a faites sont quoi ? Un reproche aux pensées même de ces églises qui disent « Il n'y a pas de telle chose comme la guérison divine et la puissance de Dieu ». Qu'en est-il de l'homme de Chicago ? Des témoignages sans nombre quand il m'a placé devant cet appareil-là. Et cette chose, comment cette main l'enregistrerait comme un détecteur de mensonges, voyez-vous ? Et cette autre femme couchée dans un lit, mourante, lui en a fait subir le test. Ça a même fait lever sa main avec suffisamment de force pour envoyer un message radio autour du monde, 40 fois, et démolir l'appareil. Cette sainte mourante faisant sa confession. On a branché cela sur la main d'un homme méchant qui se mourait. Et une fois branché, cela a projeté sa main du côté opposé, assez pour briser l'appareil. C'est ce même infidèle qui a dit, « S'il y a un Dieu et qu'il est rempli de bonté digne de louange, qui enverrait assez de puissance à cet appareil pour projeter sa main. Il y a quelque chose dans cette femme qui produisait cette puissance. Et si sur un homme méchant, ça l'envoie de l'autre côté, il a dit, « Dieu soit miséricordieux envers moi, un pécheur. » Il a donné son cœur à Christ. C'est exact. Eh bien, la science est au courant. Et un jour, vous allez découvrir que Dieu est en vous, voyez. Dieu lui-même dans l'être humain. Dieu en nous. Oh, comme je remercie Dieu pour ces choses. C'est si merveilleux. Maintenant, avant d'approcher sa parole, et prenons notre temps, parce que ce matin, nous allons prier pour les malades. Et quelqu'un demandait si nous allions être ici dimanche prochain. Eh bien, pour le moment, je ne sais pas. Je peux difficilement le savoir, à moins que le Seigneur le révèle. Si le Seigneur le permettait, ce serait peut-être dimanche soir prochain. Je prends tous les sermons du matin à mon précieux frère ici. Ferneville dit, « Amen, c'est très bien, frère. » Note de l'éditeur. « Dimanche soir prochain, peut-être, si je suis dans les environs, le Seigneur voulant, je suis d'habitude dans les environs à moins d'un appel de l'extérieur, je parlerai sur « Nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Vous voyez, un simple message de Noël. Et avant d'approcher sa parole, approchons-nous de lui par la prière. Si tous ceux qui peuvent se levaient juste un moment. Notre Père Céleste, nous sommes le peuple le plus heureux. Nous devenons aussi remplis de joie que nos âmes humaines ne peuvent le contenir. Nous devons simplement pousser des cris parfois et donner libre cours à la joie qui est dans nos cœurs par Jésus-Christ. De savoir que dans l'heure où nous vivons, malgré tous les bouleversements qui s'y trouvent, il y a cependant une fondation qui est sûre. Et d'avoir vu des hommes intelligents se lever dans les jours passés pour essayer de nier l'existence même de Dieu, mais leurs propres appareils mécaniques sont revenus témoigner à la gloire de Dieu. En effet, Judas lui-même était obligé de dire qu'il avait trahi un sang innocent. Le centurion romain dit, en vérité, c'était le Fils de Dieu. Ses propres ennemis ont dû témoigner. Et nous vivons pour voir un siècle scientifique arriver à son terme. Ils ne peuvent aller plus loin. Ils vont à un moment donné s'envoyer des bombes et tout faire sauter. Et toutefois, nous voyons que les appareils scientifiques qu'ils ont inventés pour essayer de te réfuter se sont retournés et ont témoigné de ta gloire. Nous t'en remercions infiniment, Seigneur. Permets qu'aujourd'hui nous nous souvenions que la parole de Dieu ne faillira jamais. Accorde-nous la foi, Seigneur. Amen. Ce que j'ai maladroitement exprimé tout à l'heure, ayant trait à la puissance de Dieu qui est en nous, et que toutes nos fibres sont lumière de Dieu, et les ténèbres et le péché ont étouffé les petits pores en nous de notre âme, que le Saint-Esprit ce matin se répande dans notre être, imprimant la foi dans notre être le plus profond, pour que nos corps entiers, nos vies, soient si saturés de la puissance de Dieu que les gens verront que Jésus-Christ vit dans son Église. Accorde-le, Père. Nous te remettons tout cela à présent et demandons que tu bénisses ces quelques paroles que nous allons prononcer pour essayer de commenter sur ce qui a déjà été écrit par l'un de tes apôtres, le grand saint Paul. Et je prie, Père, que le Saint-Esprit prendra ceci et qu'il le laissera croître dans le cœur des gens pour leur donner la foi à l'approche de ce service de guérison. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Une sœur parle dans une autre langue, puis un arrêt de la bande. Un frère parle dans une autre langue, puis un arrêt de la bande. Un frère donne une interprétation, note de l'éditeur. Remercions le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cher Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. Nous te remercions pour ta manifestation d'amour et de puissance, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes indignes des bénédictions que tu nous donnes. Par le débit du message, cela doit avoir été le même message qui a été donné et qui semblait appeler les pécheurs à se tourner vers toi, car l'heure de la destruction est proche. Et Père, nous prions que si cette personne est ici ce matin, ou ces personnes, qu'elles comprendront que nous ne savons rien de ces choses, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle par des lèvres humaines pour en donner l'interprétation, pour appeler les gens qui ont été ordonnés avant la fondation du monde à être des fils et des filles de Dieu et qui ont longtemps fui ces choses. Puissent-ils venir aujourd'hui, Seigneur, afin de te connaître et afin de trouver ce lieu caché, car l'heure est proche. Accorde-le, Père, tandis que nous nous attendrons à toi dans ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, s'il y a des gens qui ne comprendraient pas exactement comment ces messages sortent de cette façon, deux d'entre eux, c'est probablement dû à ce que l'un a omis de dire une chose que l'autre a saisie. Car vous avez remarqué le peu de mots que l'autre a prononcés, quelques mots peut-être que l'autre n'a pas dit. Et quand la traduction est venue, ça s'est fait en une même fois, vous voyez, le message a été donné, un appel aux pécheurs. Il faut dire que ces personnes ne savent pas sur quel sujet j'allais parler. Personne ne le sait. Il n'y a personne au monde qui le savait. Mais c'est le sujet même dont je vais parler, voyez. Oui. Tournez maintenant avec moi à 1 Corinthiens chapitre 14. C'est bon de laisser simplement toute l'incrédulité sortir de vous pour que le Saint-Esprit puisse entrer et avoir la prééminence, vous savez, et se déplacer directement dans vos fibres et contrôler votre vie. Maintenant, vous qui prenez en note les Écritures, j'ai remarqué l'autre jour que ce genre d'enseignement aide beaucoup. J'ai 3 ou 4 pages ici sur quoi je vais parler ce matin, d'écritures et de choses que vous pourriez peut-être écrire et en noter les provenances. Je les ai notées, comme ça je ne les oublierai pas. Maintenant, au chapitre 14 de 1 Corinthiens, les versets 1 à 8. Écoutez attentivement. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Maintenant, je veux, quand vous rentrerez chez vous, que vous continuiez à lire le chapitre au complet, parce qu'il y a plusieurs versets là-dessus, 40 versets dans ce chapitre. Et j'aimerais que vous les lisiez une fois à la maison. Ils expliquent les dons. J'intitulerai le sermon comme ceci, « Le son incertain ». Paul ici parlait du parler en langue. S'il n'y avait pas eu d'interprète qui aurait pu savoir ce que ces personnes disaient tout à l'heure, personne ne l'aurait su. Mais il parle simplement à Dieu. Bien sûr, son esprit laisse entendre la parole et il est glorifié, il en est béni. Il a dit, il s'édifie lui-même parce qu'il a la consolation que Dieu lui parle. Mais s'il y a un interprète avec ça, vous voyez, si un interprète poursuit derrière, alors ça n'édifie pas seulement la personne, ça édifie toute l'assemblée. Ça donne par ce moyen à chacun la parole du Seigneur. Ils ont dit, s'il y a le prophète, alors le prophète parle afin que l'assemblée entière, laquelle est un prophète, qu'est-ce que c'est? Un divin révélateur de la parole divine qui a la révélation de la parole à donner aux gens. Alors cela édifie tout le monde, vous voyez? Amen. Toujours l'homme qui parle en langue peut parler en langue. Et il est défendu d'une part qu'une personne parle en langue à l'église, à moins qu'il y ait un interprète. C'est aussi la raison pour laquelle il est permis de parler en langue ici, parce que nous avons maintenant 3 ou 4 interprètes dans l'assemblée de cette église-ci, des interprètes de langues inconnues. Mais s'il n'y avait pas d'interprète, alors il ne leur serait pas permis de parler dans l'église. Toutefois, ils le peuvent à la maison, et quand ils prient, parce qu'ils s'édifient eux-mêmes, parce que l'Esprit est sur eux. Ces gens croient en effet qu'ils se font comprendre quand ils parlent, mais ce n'est pas le cas. Ils se lèvent et commencent à dire quelque chose et ils ne peuvent mettre un frein à cela. Ça continue simplement à s'exprimer d'eux et ils pensent que vous comprenez ce qu'ils disent. C'est un état subconscient. C'est comme quand vous êtes sur l'estrade, comme aujourd'hui. Vous allez remarquer quand les discernements viennent. Il y a plusieurs personnes ici que je n'ai jamais vues de ma vie. Surveillez le Saint-Esprit quand il descend. Il commencera à traverser l'assemblée et à dire aux gens qui ils sont, ou d'où ils viennent, leurs conditions et leurs maladies. Tout cela, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, atteignant jusqu'à la moelle de l'os et discernant les pensées mêmes et les intentions du cœur et de l'esprit. Voyez? Voyez, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Paul a dit, si tous parlent en langue, et qu'il n'y a pas d'interprète, et que survienne un homme du peuple, ne dira-t-il pas que vous êtes fous, insensés? Le mot fou signifie insensé. Ne dira-t-il pas qu'ils sont insensés? Mais s'il en est un qui peut prophétiser et révéler les secrets des cœurs, alors tous tomberont sur leur face et publieront « Dieu est avec vous ». Maintenant, s'il y a un interprète, une interprétation à une langue inconnue est une prophétie. Voyez, c'est une prophétie en elle-même, parce que le Saint-Esprit parle et donne l'interprétation. Elle dit à certaines personnes certaines choses à faire et tout. Et chacun sait quand ça vous frappe, vous savez à qui il s'adresse. C'est bon de voir que ce ne sont pas les êtres humains, mais que c'est Dieu dans les êtres humains qui fait son œuvre. Nous remercions grandement le Seigneur pour ces choses. Et je commence à remarquer que ça se répand dans les autres endroits, les autres églises. Charles Fuller, combien ont déjà entendu parler du Old Fashioned Revival Hour, un grand homme? Il y a quelque temps, il a dit, nous avons le parler en langue, l'interprétation ici même, là-bas à Long Beach. Tout à fait, j'ai prêché là avec lui à plusieurs reprises. Donc ils ont l'interprétation et cela fait que chacun reste bien tranquille. Voyez, la chose est que nous ne donnons pas leur place à ces dons et quand parfois un don sort de l'ordre, vous devez le rappeler. C'est Satan qui essaye de les faire s'emballer. S'il ne peut pas vous empêcher de recevoir une vérité, Il prendra cette même vérité et vous fera vous emballer avec ça. Voyez, c'est exact. Il s'en servira pour introduire le fanatisme. Nous essayons ici de garder cela dans l'ordre. Ça recommence à se manifester dans notre Église, pour la première fois depuis des années. Donc on garde cela dans l'ordre, on les en instruit. Quand maintenant, souvent, comme en ce moment, il pourrait y avoir quelqu'un qui sent qu'il va parler en langue. Voyez, en ce moment, mais ils sont supposés garder le silence, car c'est l'heure de la prédication. Voyez. Et quand la prédication est terminée, l'appel à l'autel ou quoi que ce soit est terminé ici, alors un message peut être donné, vous voyez. Celui qui parle peut parler quand le prédicateur a terminé ou avant qu'il ait commencé. Si maintenant cela continue de vouloir s'exprimer et que les dons surviennent, alors nous tiendrons un temps particulier pour eux. Et ils se rencontreront des heures avant que l'Église n'ouvre, et ils s'assieront ensemble et prophétiseront et parleront en langue et ils écriront ces messages et les mettront ici sur l'estrade. Quand le pasteur s'avancera, il dira directement, « Ainsi dit le Seigneur, il arrivera dans 2 jours que frère Jones, qui vit ici, près de la voie ferrée, déménagera parce qu'il y aura une voiture qui perdra contrôle et qui frappera de plein fouet sa maison. Ainsi dit le Seigneur, il y a une femme ici ce matin du nom de Madame Untel, elle vient de tel endroit, elle a volé quelque chose quand elle était une jeune fille. Frère Branham ou frère Neville ou un autre imposera ses mains sur elle. Après qu'elle aura confessé et réparé cette chose, elle sera guérie. Son nom est Madame Untel. » Vous voyez, le pasteur, avant que le service ne commence, lira ses prophéties. C'est exact, vous voyez. C'est maintenant à l'état infantile parmi nous. C'est à l'état infantile. Alors vous voyez, il n'y a rien qui pourra se glisser. Le diable s'introduira et voudra rendre la chose charnelle. Ensuite, s'il y parvient, il mettra en pièces l'Église entière comme cela, vous voyez. Il ira dans le fanatisme et sortira de l'ordre en tout temps. Mais l'Église est dans l'ordre. Et maintenant, si la personne qui a un don est rappelée par l'Écriture et qu'elle perd le contrôle d'elle-même, cela montre que ce n'était pas un don de Dieu. Parce que tout don de Dieu respectera la parole, sera doux, vous voyez. C'est pourquoi la guérison divine est ce qu'elle est. Et le Saint-Esprit respecte la parole. Le Saint-Esprit, le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en vous respectera cette parole parce qu'il l'a écrite lui-même et il est en vous. C'est cette lumière de Dieu qui est en vous, qui honorera la parole sans se soucier d'où cela vient. L'esprit des prophètes, ceux qui prophétisent, les dons, sont soumis au prophète, voyez, lequel est le révélateur divin de la parole. N'êtes-vous pas heureux de voir ces choses en cette heure? Amen. C'est maintenant un jour d'incertitude. Il est dit ici, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Paul parlait ici, bien sûr, aux Corinthiens. Beaucoup d'entre eux étaient soldats en ces jours-là, dans leur armée respective. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera? Vous devez avoir la certitude des choses. Nous devons savoir si c'est vrai ou faux. Nous vivons actuellement en un jour de grande incertitude. Nous en sommes tous conscients. Un jour d'incertitude et un temps d'incertitude. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un temps, depuis le commencement du temps dans le jardin d'Éden, quand le péché est entré et qu'il a forcé le temps aux dépens de l'éternité, et je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un temps d'une aussi grande incertitude que ne l'est ce jour. Parce qu'il n'y a pas même une ombre d'espoir dans le monde naturel d'aujourd'hui. Là, vous dites, eh bien, j'ai vu des périodes, j'ai lu dans l'histoire où les guerres étaient partout sur la terre. C'est vrai, mais pas une fois où la terre entière sera réduite en morceaux en une seconde, voyez, et d'une telle ampleur. Alors qu'il aurait fallu des semaines et des heures, et ainsi de suite, maintenant il faudrait 1 minute, et peut-être pas autant, un simple bouton à presser, et elle est détruite, c'est tout. Même Cuba peut le faire, Haïti peut le faire. La moindre petite nation, si elle le veut, peut anéantir le monde par le feu et le faire sortir de son orbite quand ils voudront, vous voyez. Ça ne prend qu'un seul fanatique pour le faire, quand il y en a des dizaines de milliards d'entre eux autour du monde. Surveillez le cas d'un suicide qui s'est produit là, et parmi eux, et le diable a tellement pris en sa possession, là où sont les hangars. Il n'aurait eu qu'à presser un bouton et vlam, les voilà partis. Et aussitôt qu'elles partent, elles entrent dans les écrans radars des autres et ils pressent les leurs. Et c'est là où nous sommes, vous voyez, c'est tout. parce que chacun surveille son écran. Sur les mers, des sous-marins, dans les îles, partout, ils sont établis au pôle nord, au pôle sud, partout, il y a de ces grands écrans. Que quelqu'un appuie sur le bouton, c'est tout ce qu'ils veulent. Aussitôt, leur bouton à eux sera pressé, et celui de tous les autres. Et qu'arrivera-t-il? Mais oh, pensez, et cela pourrait arriver avant la fin du service de ce matin. Mais rappelez-vous qu'avant que cela n'arrive, Dieu a promis de venir pour son Église. Il a promis de venir, et nous ne connaissons pas l'heure de sa venue. Quelle chose glorieuse! Et il apparaîtra à tous ceux qui aiment son avènement. N'aimeriez-vous pas le voir ce matin? Amen. Comme nous chantons ce petit chant, je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Quand toute vie sera terminée et que les troubles et les peines auront pris leur envol pour la dernière fois, nous le verrons. Et là, nous serons jeunes, immortels, à jamais en sa présence, où il n'y aura jamais plus de péché, de maladie, de chagrin, de peine, quand le temps se fondra dans l'éternité. Quelle chose merveilleuse! Et puis, qu'est-ce que cela vous pousse à faire? Vous voulez travailler à amener chacun dans cette position, tous ceux que vous pouvez pour l'enlèvement. Je me suis reconsacré et j'ai promis à Dieu que j'essayerai de faire une double portion. J'ai fait tout ce que je savais faire et je souhaiterais seulement être de nouveau jeune, avoir 18, 20 ans et savoir ce que je sais. Je resterai peut-être un peu plus longtemps ou je rendrai un peu plus de visites ou quelque chose comme cela pour le royaume de Dieu. Vous les jeunes gens ce matin qui avez encore toute votre jeunesse et qui n'êtes pas pris par la famille et ces choses-là, puisse Dieu vous montrer la vision aujourd'hui pour voir l'heure qu'il est. L'incertitude. Survolons quelques points d'incertitude en ce temps d'incertitude. Étant donné que l'on parle de guerre, il y a de l'incertitude dans la voix des seigneurs de la guerre. Nous ne pouvons pas comprendre, disent-ils. Ils ne savent pas. Ils auront d'importants meetings et ainsi de suite et ne pourront s'entendre. Il y a de l'incertitude. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Tous les grands stratèges et ainsi de suite qui étudient les guerres et les possibilités de guerre et comment celles-ci seraient provoquées, ils n'ont pas la réponse ce matin. Il n'y a personne qui le sait. Ils ne pourraient pas vous le dire. Eh bien, la science, après toutes les grandes découvertes qu'ils ont pu imaginer, toutes les grandes stratégies qu'ils ont pu envisager, toutes les manœuvres scientifiques et les interrupteurs qu'ils ont pu abaisser de leurs appareils scientifiques et leurs grands penseurs, et quand ils se sont réunis, ils ont dit une chose, il est minuit moins trois, c'est leur réponse. Pourrions-nous survivre à une telle attaque? Pourrions-nous creuser assez profond pour nous garder de l'explosion des bombes et survivre comme nation? Vous ne le pourriez certainement pas, ça remuera la terre jusqu'à 2 kilomètres de profondeur. Et si on était à 15 kilomètres sous la terre? Si vous étiez à cette profondeur, vous seriez dans la lave. Si vous pouviez descendre à cette profondeur, la secousse briserait tous les os de votre corps. Il n'y a pas de sortie par le bas. La sortie est par le haut. Oh, je suis si heureux d'avoir la solution. Pas vous? Amen. Un son qui est certain. Cette trompette de creuser et de s'enfermer dans les cavernes. Et j'ai entendu qu'il déplace ici le gouvernement et les choses qui lui appartiennent près de Fort Knox et près de Mammoth Cave, qu'ils ont un endroit là qu'ils préparent. Si une petite dispute survient, d'une guerre ou de quelque chose, ils vont prendre le gouvernement à l'intérieur de ces cavernes. La Bible ne dit-elle pas clairement qu'il se cacherait dans les cavernes et tout, qu'il ferait ces choses? Exactement. Voyez, ils n'ont pas de solution. Donc, notre grand régime de force militaire n'a pas de solution. Autrefois, notre science aimait dire, nous pouvons fabriquer une grosse machine, nous avons de meilleures armes que les Allemands, nous avons des gens qui ont beaucoup plus de cran et de pouvoir, et de dynamisme, et de joueurs de tambour, et de sonneries de clairons, et de drapeaux flottants, et de hurrahs, et toutes ces choses-là. Ou bien, nous pouvons traverser l'océan, et on a tout ce qu'il faut derrière nous pour le faire. Vous n'avez pas à traverser l'océan. Cette fois-ci, on va l'avoir sur notre territoire. Oui, un seul homme a pressé le bouton, c'est tout ce qu'il faut. Un seul homme, ça ne prend pas un millier de soldats bien entraînés. Un seul homme sans jugement suffit possédé du diable pour presser ce bouton et c'est suffisant, voyez. Donc ils n'ont pas de solution. Aussi, à quoi ont-ils finalement conclu? Eh bien, il est minuit moins 3 minutes. J'ai le film qui en parle. Je l'ai emprunté d'un ami médecin, minuit moins 3. Ce film a été réalisé il y a environ 5 ans, quand les Juifs ont commencé à rentrer en Palestine. Et ce film les montre transportant des vieillards infirmes sur leur dos, à pied, et ils les ont interviewés, et quand ils leur ont demandé « Vous retournez dans votre patrie ? Mourir dans votre patrie ?» Ils ont répondu « Nous revenons pour voir le Messie. » Et qu'est-ce que le prophète promet ? Plusieurs d'entre vous ont lu le magazine Look, le Life et les autres. Ils ont la photo de ces avions qui les ramènent des différents pays, de l'Iran et de ces endroits où ils étaient. Et quand est venu le temps pour eux de s'embarquer, vous savez, ils labourent encore avec de vieilles charrues de bois, comme ils le faisaient il y a 2500 ans lors de leur dispersion par l'Empire romain. Et ils refusaient d'embarquer sur ces avions. Mais leur vieux sacrificateur, un de leurs vieux rabbins, un enseignant, a pris les devants et leur a dit « Dieu ne nous a-t-il pas dit qu'un jour nous reviendrions dans notre patrie sur les ailes d'un aigle ?» Ils ont abandonné leur charrue, ont pris l'avion et sont retournés dans leur patrie sur des ailes. Ésaïe l'a vu, mais il ne savait pas comment nommer cela. Ça ressemblait simplement à un oiseau qui volait. Il a vu Israël revenir, agité de côté et d'autre. Et vous qui voyagez par avion, vous savez ce que c'est. C'est une agitation de côté et d'autre, comme un oiseau qui vole, qui revient à la maison. Ils sont ensuite débarqués et ils ont dit « Où est le Messie ?» Ils ont voulu le voir. Et je vais vous dire, quand vous voyez les Juifs revenir comme cela, c'est l'horloge de Dieu. Nous sommes à la fin. C'est tout récemment devenu une nation. C'est devenu tout ce qu'ils sont. Ils ont leur monnaie, leur armée et tout. Ce qu'ils ont est à eux. Ils sont de nouveau une nation, voyez. Oh, rien qu'à la pensée. J'ai quelques citations là-dessus que je vous donnerai un peu plus loin. Incertitude maintenant de la guerre. On ne sait à quelle heure. Écoutez la radio. Vous les entendez dire à la radio, amassez des vivres dans vos sous-sols. Faites suffisamment de provisions d'eau à cause des retombées. Ayez avec vous une radio et ne vous en faites plus. J'ai lu dans les magazines qu'ils font l'annonce de petits abris où vous pourriez vous cacher, que vous pouvez mettre dans votre sous-sol ou votre cour ou ailleurs. Si les bombes commençaient à tomber, que vous en surviviez, les retombées atomiques, elles, auraient raison de vous. Donc, aussi bien ne pas vous en faire. S'ils laissent tomber une bombe sur la Nouvelle-Orléans, les retombées vont nous atteindre ici. À quoi bon donc? Vous mourrez de toute façon. Abritez-vous, comme ça vous vivrez un peu plus longtemps, ou des choses comme ça. Oh là là, je ne crois même pas ça. Je crois que c'est de la folie même d'essayer, c'est exact. Mais l'Église n'a pas à s'en faire. Vous ne serez pas ici quand ces choses vont arriver de toute façon. C'est là une chose assurée, vous n'y serez pas, parce que la certitude de la parole de Dieu nous le promet. Prenons maintenant quelque chose d'autre qui est incertain, ou plusieurs autres choses. Les emplois sont incertains. Vous ne savez pas quand ça peut arriver. Aujourd'hui, vous travaillez, et demain, vous ne savez pas. C'est une incertitude. Vous avez un bon emploi, du moins c'est ce que vous pensez, le lendemain, le patron vous remplace par un autre, et vous, vous êtes mis à la porte. Donc, c'est l'incertitude de l'emploi. Prenons aussi la vie familiale comme incertitude. Je vous le dis, je ne sais pas ce qui est arrivé à la nature de nos femmes. Le divorce partout, c'est épouvantable. Et voyez quel est le groupe le plus touché. Ce sont des jeunes qui se marient et qui ont 2 ou 3 enfants ou quelque chose comme cela. Puis ils vont se séparer. Partir et se remarier, et se remarier, et se remarier, et se remarier, et se remarier. Et leur foyer. J'étais chez des gens vraiment, vraiment pauvres l'autre soir. L'homme m'a dit, je vais vous dire, je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour arriver. J'ai regardé autour de moi, il revenait du travail, il avait une femme loyale comme tout et 4 ou 5 petits visages sales qui jouaient dans la pièce. J'ai dit, mais tu es un millionnaire? Et il a dit, non, frère Branham, je ne voudrais pas vous contrarier, mais je n'ai pas un sou. Et j'ai dit, mais tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai dit, tu as une petite femme ici qui ne possède peut-être pas 2 robes à elle. Et si c'était le cas, c'est que quelqu'un les lui avait donnés parce que son mari ne travaillait qu'une journée par-ci, par-là. Et j'ai dit, regarde, mais elle est d'une loyauté exemplaire. J'ai dit, il y a plus d'un millionnaire ce soir qui donnerait tout l'argent qu'ils ont pour trouver à la maison, à leur retour, une femme comme elle. C'est exact. J'ai dit, sa femme est sortie, est avec d'autres hommes quelque part ou dans un bar quelconque. Elle jure, chante, fume, court et des choses comme celle-là. Et pourtant, il l'aime, mais voit ce qu'il a. Toute sa vie est pour cette femme et voit sa façon de se conduire. Et vice-versa. C'est pareil. Le temps est maintenant arrivé où tout n'est plus qu'une agglomération de péchés. Une femme restera à la maison pour prendre soin de ses enfants, tandis que son mari sera à l'extérieur à boire et à se malmener, à courir d'autres femmes. Que donnerait-elle si elle possédait des millions de dollars pour voir son mari devenir véritablement un homme? Il n'y a qu'une seule façon pour que cela se produise. Jésus-Christ est la solution. Il n'y a rien d'autre que lui qui puisse jamais suffire. C'est à la fin du temps, c'est Christ et lui seul. J'ai donc dit, combien de pères millionnaires sur cette terre aujourd'hui donneraient tout ce qu'ils ont pour voir leur enfant épileptique être tout aussi en santé que le vôtre ici ce soir? Voyez, il a commencé à me regarder droit dans les yeux. J'ai dit, regarde, de l'argent que tu as retiré cet après-midi, tu as dit avoir des viandes froides, des fèves et du pain pour nourrir tes enfants ce soir. J'ai dit, ils ont tous de bons estomacs et peuvent en manger, et toi aussi. Dis-moi, John D. Rockefeller n'a-t-il pas dit qu'il donnerait sans broncher 1 million de dollars pour pouvoir manger un plat de choux? Et j'ai ajouté, tu as dit que tu étais près de la fenêtre ce matin et que tu sentais la froideur du vent par les fentes. Lui, il est assis dans un palais quelque part, tu vois. Mais cependant, s'il pouvait s'asseoir là et manger un plat de choux dans ce vent froid, bouché par du papier, j'ai dit, John D. Rockefeller aurait donné 1 million de dollars pour pouvoir manger une fois ce que tu manges quand bon te semble. Combien d'aveugles avec une canne à la main donneraient tout l'argent qu'ils ont pour avoir tes yeux? Voyez, on ne peut évaluer les choses qui valent une richesse par les choses qu'on appelle la richesse. Maintenant, pardonnez-moi, membre d'Église. C'est pourquoi nous essayons de dire ce matin que vous ne pouvez évaluer votre grosse Église et vos hauts clochers et ces choses à l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est sans comparaison. Ces choses viennent de façon surnaturelle. Vous pensez peut-être que nous sommes bizarres parce que vous les avez entendus parler en langue et interpréter, et les gens pleurent et poussent des cris. Je préférerais avoir ça que tout le reste. Je préférerais être un pasteur d'une petite bâtisse comme celle-ci, où la puissance de Dieu se mêle aux gens, où l'Église se rassemble avec ces choses en son sein, que d'avoir la plus grande cathédrale du monde où y prêcher parmi une bande de tièdes qui se disent chrétiens et qui surveillent tous les mots que vous dites. Et vous ne pouvez prêcher par inspiration, cela doit être superficiel, et il faut prendre soin de tous les juges et les docteurs et tout ce qui s'y trouve pour ne pas dire des choses qui blesseraient leurs sentiments parce que ce sont de bons payeurs dans l'Église. Je prendrai le chemin des quelques méprisés du Seigneur. Voyez, vous ne pouvez pas évaluer cela, il n'y a pas de façon de le faire. Aussi aujourd'hui, l'homme qui est riche est l'homme qui est en Christ. Maintenant, disons que vous avez une bonne vue, une bonne santé, beaucoup d'argent et tout le reste. Mais si vous n'avez pas Christ, vous êtes perdu, vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu, et vous ne le savez pas, voyez. C'est ce qu'était l'âge de l'Église de Laodicée. Vous pourriez appartenir à la plus grande Église qu'il y ait dans la nation, vous pourriez appartenir à la plus large dénomination, mais être néanmoins aussi perdu qu'il est possible de l'être, voyez. Donc l'homme riche est celui qui est en Christ, c'est exact. Maintenant, l'incertitude de la vie familiale, l'incertitude de l'emploi, l'incertitude de la guerre, l'incertitude des églises. Étant donné que l'on vient de toucher à cela, parlons-en donc pendant quelques minutes de l'incertitude de la vie d'église. Vous ne pouvez à peine l'évaluer parce qu'il n'y a aucune manière d'évaluer ce qu'est une expérience dans le Saint-Esprit par rapport à un membre d'une église, voyez. D'aucune manière, il n'y a aucune manière d'acheter ce Saint-Esprit. Il vient comme un don gratuit de Dieu. Il vient à tous ceux qui veulent. Vous dites, est-ce que ce sera seulement pour la Pentecôte? La Pentecôte n'est pas une dénomination. C'est ce qu'ils ont essayé d'en faire, mais vous ne pouvez pas faire de Dieu une dénomination. La Pentecôte est une expérience que tout croyant peut avoir. Vous voyez, c'est pour les baptistes, les catholiques, les juifs, les noirs, les blancs, les bruns, les jaunes, les rouges, pour toute couleur, credo ou tout, riche ou pauvre, avec rien ou avec beaucoup, pour qui que ce soit, pour vous, c'est pour vous. Et c'est l'amour et la miséricorde de Dieu répartis pour vous de l'accepter. Ça ne vous coûte rien. Tout ce que cela vous coûte, c'est de lui soumettre votre vie et de le recevoir. Comme c'est simple. Oubliez seulement tout ce que vous avez jamais su et abandonnez-vous à lui. Et c'est de la manière qu'il vient quand on le reçoit de cette manière. Les dénominations, ça ne peut être ça. La dénomination donne un son confus. Laissez-moi vous démontrer que c'est un son confus. Dans cette dénomination, ils disent « Nous l'avons reçu, les autres ne l'ont pas ». Très bien, allez-y, vous allez à l'autre, ils disent « Nous l'avons, les autres ne l'ont pas ». Voyez, chacune d'elles le prétend. Il y a 900 différentes églises nominales, 969 je crois pour être exact selon les statistiques, 969 différentes églises nominales, et chacune déclare que l'autre est dans l'erreur et que l'on. Donc comme son, c'est tout ce qu'il y a de plus confus, voyez. 900 et... Mais quel en est le son? Jésus-Christ le même hier et aujourd'hui et éternellement. La congrégation se réjouit, note de l'éditeur. Il n'y a pas d'incertitude en cela, n'est-ce pas? Non. C'est le moyen de l'évaluer. C'est le moyen d'évaluer où se trouve la vérité. Vous dites, nous les méthodistes, nous l'avons. Nous les baptistes, nous l'avons. Nous les catholiques, nous l'avons. Nous les presbytériens, nous l'avons. Eh bien, Jésus-Christ est celui qui l'a, parce qu'il a dit « Je suis la lumière, la vérité, le chemin ». Donc, c'est Christ en vous. Donc, ces différentes grandes dénominations, certainement, sont différentes entre elles et rendent un son très douteux. Et tout ce qui est incertain comme cela est aussi douteux. Tout ce qui est confus est douteux. Ce n'est pas simplement en vous joignant à une église que vous pouvez dire que vous êtes en sécurité. Parce que chacune donne un son différent. Et où va-t-on comme ça? Cela vous rend confus. Si jamais il y a un endroit que je connaisse, j'ai souvent mentionné ceci, et je le répète à nouveau ce matin, l'endroit où l'on a le plus besoin de missionnaires, c'est bien aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un païen? Un païen, c'est un incroyant. Et maintenant, on en a en Afrique et en Thaïlande, et en différentes parties du monde, on a le païen qui adore une idole. Et on l'appelle païen parce qu'il adore une idole. Il ne fait pas de différence entre sa droite et sa gauche. Il ne connaît pas son ABC. Lui, la seule chose qu'il connaisse, c'est de ce Dieu dont un sorcier lui a parlé. Et pour lui, c'est là où se trouve Dieu en ces choses. Et la seule chose qu'il sache faire, c'est de se trouver de quoi manger, peu importe la manière qu'il se l'approprie. C'est là ce que nous appelons un païen. Mais maintenant, cet homme n'est pas si difficile à convaincre quand vous lui apportez la vérité. Mais le plus difficile à convaincre est ce païen instruit. Vous voyez, ce païen d'ici, des États-Unis, qui est diplômé 4 fois du collège et qui se tient derrière une chaire, un incroyant. Dites, eh bien, on a tenu un service l'autre jour et le Seigneur a guéri une dame. Dira-t-il, c'est un païen, il n'est qu'un païen instruit, un païen c'est un incroyant. Avant-hier, alors que j'étais au bureau, il y avait un groupe de personnes, dont quelques-uns sont ici en ce moment, quand une dame est arrivée en voiture dans la cour avant. Il y avait 5 ou 6 personnes à l'intérieur et une dame est arrivée au volant d'une roulotte mobile. Un homme est venu à ma porte et a dit « Frère Branham, je n'aime pas passer outre à cette indication, mais en passé, on voulait vous dire que... » J'ai dit « Entrez ». « Non », a-t-il dit, « ma femme veut simplement témoigner, vous raconter ce qui lui est arrivé ». Eh bien, de fait, elle était une bonne amie de sœur Mercier et de la mère de frère Léo, ici, un de nos frères de l'Église, un de ceux qui enregistrent. Et il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Est et une femme était venue sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit a dit, vous êtes madame une telle, et vous venez d'une certaine ville, vous souffrez de telle et telle chose. Oui, c'était l'exacte vérité. Ensuite, il a dit, vous avez une amie qui vit en Californie. Elle est une amie précieuse et cette femme est mourante d'un cancer du rein. Elle a dit, il n'y a rien de plus vrai, frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur, voyez. Cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant, ô Dieu, voyez, c'est ce que ça devrait faire. Mais, oh, ce sont des païens instruits. C'est la sorte qu'il est difficile de convaincre. Voyez, il est si intelligent, il en sait plus que Dieu lui-même. C'est aussi pourquoi il hybride le maïs, hybride les animaux et tout. Voyez ce qu'il fait de lui-même. Revenant tout droit, faisant simplement, eh bien, un rejeton de lui-même, c'est vrai, en faisant ces choses. Avec tout le savoir de leur pensée, de leur esprit, ils se tirent d'affaire. Maintenant, nous remarquons que cette femme a dit, « Oui, c'est exact. » Coupure sur la bande, note du traducteur. Jusque ce que ça atteigne, je crois l'avoir entendu dire, 45 ou 65 centimètres. Elle était si grosse qu'elle ne pouvait rester debout avec cette tumeur. Quand elle voulait se lever, elle ne pouvait pas bouger. Et ils l'ont emmenée à cette église et l'ont assise là. Ils l'y ont amenée le soir suivant le service de guérison du matin. Et les frères lui avaient dit que n'allions pas prier pour les malades ce soir-là, parce que nous avions prié pour les malades le matin, et ils ne voulaient pas mettre trop de pression sur moi ce même jour. Et donc, après le service, j'étais là en train de parler à quelques personnes, et un homme l'a prise et l'a portée près de la maison, et il l'a assise sur la marche comme les gens sortaient. Elle était assise là, l'homme l'y avait amenée. Et frère Taylor, l'un de nos précieux frères de l'église, se trouvait là quand cela s'est produit. Et je crois même qu'il l'a aidé à porter la femme. « Es-tu ici, frère Taylor ? Où es-tu ? » ?»« À l'arrière. » »« Oui, là, il y était. » Elle a aidé à la porter à l'arrière. Et la tumeur se voyait comme ceci. Donc, quand j'ai franchi la porte arrière, j'ai baissé les yeux et j'ai regardé, j'ai dit, « Femme, le Seigneur Jésus qui vous a guéri de ce cancer du rein il y a plusieurs années, vous guérira aussi de cette tumeur. Ainsi dit le Seigneur. » Je ne l'ai jamais touché ou rien de cela. Je me suis dirigé vers ma voiture et m'en suis allé. Je suis parti. Il a dit, sortiriez-vous la voir? J'ai dit, oui, certainement. Dites-lui d'entrer. Il a répondu, non, nous n'avons pas le temps. Il nous faut partir tout de suite. Je suis sorti. Et la petite femme est sortie d'un bond de la voiture, aussi plate du ventre que je peux l'être. Elle avait eu un temps béni sur la route, parlant en langue et criant à tue-tête, en face du pasteur presbytérien. Elle avait un temps béni. Bon, il y a sûrement des voisins qui ont regardé par la fenêtre et qui ont pensé, ça alors, ça doit être quelqu'un de l'institut de psychiatrie venu voir frère Branham pour une prière. Cette femme ne sortait pas d'une institution psychiatrique, son âme revenait de la gloire, voyez, elle avait un temps béni. Elle a dit, regardez ici frère Branham, elle a ouvert son manteau. Et cette proéminence ne se voyait plus. Elle a dit, les premiers deux ou trois mois après que vous m'ayez dit ces choses, j'étais dans un très mauvais état. Elle a dit, le docteur a dit qu'il n'allait rien tenter de plus si je ne lui permettais pas d'essayer d'extraire cette tumeur de moi. Combien t'elle dit que ça pesait? Près de 14 kilos, frère Taylor. C'est ça. Ils ont estimé la tumeur à près de 14 kilos. Et elle a dit, tout à coup, ça commençait à faire... Oh, il tient sa parole. Tout à fait. Pour ceux qui aimeraient lui écrire, nous avons son adresse et tout. Elle a laissé à Léo et pour qu'il salue sa mère pour elle. Et de fait, son frère à elle a marié une amie à moi d'ici, à Utica. La fille était là, son nom est Clyde Rains. Je connais beaucoup de... Il y a beaucoup de... On l'appelle Chais. On jouait ensemble quand on était jeunes. Il vit ici à Utica Pike. Il est une sorte d'officier d'État là-bas. Et sa sœur se trouvait dans la voiture et ils vont, je pense, à l'église Campbellitz. Je me demande bien quelle impression cela a eu sur elle. Elle a dit, Billy, c'est extraordinaire. Je connaissais personnellement la fille. Nous sommes sortis ensemble à quelques reprises quand nous étions jeunes, quand nous restions ici sur la route. Une très bonne fille, des plus gentilles. Elle a maintenant presque mon âge. Et donc, elle écoutait ce témoignage tout bonnement. Et c'était la sœur de son mari qui avait été guérie. Oh, je vais vous dire, frère, il n'y a pas d'incertitude à ce sujet, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui rend la chose vraie. Tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance, et même encore aujourd'hui, quand ils ne sont pas certains que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, laissez cela de côté. C'est possible d'être certain, vous pouvez être sûr. Même s'il n'accomplissait jamais plus d'autres miracles pour vous que le grand miracle, celui de vous pardonner vos péchés. C'est le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, de pardonner à l'homme ses péchés. Prenez un homme et convertissez-le des choses, voyez, qui change son être le plus profond de ces choses. Auparavant, il buvait et il gageait, agissait mal et des choses comme cela. Du jour au lendemain, il fait demi-tour et revient à l'amour, revient à sa femme et dit, « Ma chérie, je suis désolé de t'avoir ainsi traité. » Il prend ses enfants dans ses bras et leur dit, « Papa a dépensé tout son argent à du whisky et papa a fait ceci. Et maman s'est absentée toute la soirée et vous a laissé. Je ne le referai jamais plus. Dieu m'a pardonné. » Et ce témoignage est l'un des plus grands témoignages qu'il y ait. Tous les alcooliques anonymes et tous ces mouvements ne peuvent jamais transformer comme cela le peut. Ça ne peut rien pour la personne. Voyez Rosella Griffith ici, elle est assise là, quand tous les mouvements anonymes de Chicago, quatre des grands hôpitaux et leur personnel médical l'eurent laissé tomber. L'espace d'un moment sur l'estrade a changé ce plus que semblant de femme qui tenait là. Elle portait un manteau coupé comme ceci, un manteau de vison que sa mère lui avait acheté. C'était une femme intelligente. Elle gardait ses bouteilles de whisky dans son manteau. Elle craignait de tomber dans la rue et de geler là avant que quelqu'un ne la trouve. Debout, là, quand tous les alcooliques anonymes et tous les autres n'eurent plus su quoi en faire. Elle est en train d'écrire un livre là-dessus. Elle s'est avancée à l'estrade. Le Saint-Esprit lui a dit, « Ton nom est Rosella Griffith. » Il n'y a aucune incertitude en cela, voyez. Tu es une alcoolique. Tu es allée chez les alcooliques anonymes et tout. Mais, ainsi dit le Seigneur, c'est terminé maintenant. Et cette autre femme qui était assise au balcon, la partenaire de danse de Fred Astaire, s'est levée d'un bond. Le Saint-Esprit a dit, c'est exact. Elle est, elle aussi, une alcoolique et une droguée. Et elle est recherchée en ce moment. Et son père s'est levé et a dit, c'est assez, là. Elle a repris, attendez un instant, papa, l'homme a raison. Il n'y a pas d'incertitude en cela. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Abandonnez-vous. Elle est maintenant sur les champs missionnaires avec son mari, prêchant l'évangile. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ces jours où la dénomination en donne une incertitude, pourquoi écouterions-nous une église nominale quand Christ demeure le même? Il n'y a pas d'incertitude en cela, c'est certain à tout coup. Maintenant la Bible, nous savons que la Bible dit ici que si tout ce qui est mort rend un son, une chose morte, des églises mortes ou quoi encore rendent des sons, mais à moins qu'il n'y ait une distinction dans le son, à moins qu'il n'y ait quelque façon d'en être certain. J'ai des écritures décrites ici concernant les soldats. Oui, les soldats peuvent, lors de l'entraînement, différencier ces clairons. Quelques-uns sonnent la retraite ou les appellent au travail et tout, ils sont formés au son des clairons. Et s'ils ne connaissent pas le son de ces clairons, comment vont-ils se préparer? C'est exact, mais ils sont préparés à répondre à ce clairon et ils savent quand ce son retentit ce qu'il signifie. Comment, quand Titus a assiégé les murs de Jérusalem, quand il l'a investi par les armées, tous ces soldats bien entraînés, ces disciples, ce que les historiens en écrivent, Jésus sur le mont ce jour-là a dit, « Quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, que celui qui est dans les champs ne retourne pas à la maison pour prendre son manteau, que celui qui est dans la maison ne monte pas sur le toit ou en descende, mais fuyez dans les montagnes, car il y aura un temps de détresse. » Maintenant, regardez ce que toutes les grandes églises confessionnelles ont dit quand elles ont vu Titus marcher sur eux. Nous devrions monter à la maison du Seigneur, offrir nos prières. C'était trop tard. C'était un son confus pour le sacrificateur. C'était un son confus pour l'Église. Mais pour ceux qui avaient été entraînés à la voix de Jésus, ils se sont enfuis dans les montagnes aussi vite qu'ils l'ont pu. Et ce sont les seuls qui ont survécu. Sortez de la ville. Là, si Jésus ne leur en avait pas parlé, ni donné instruction, ce son de préparation, comment aurait-il su qu'il fallait s'enfuir? Maintenant, Josephus, le grand historien, a dit, les seuls à avoir survécu ont été les disciples du Christ qui étaient des cannibales. Un des historiens a dit qu'ils étaient des cannibales. Il a dit, ils prirent un homme appelé Jésus de Nazareth, que Pilate avait crucifié. Ils ont volé son corps du sépulcre, l'ont tranché, l'ont mangé. ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la communion, le corps du Seigneur, vous savez, comme nous le faisons ici. Et il a dit, ils ont été les seuls à survivre parce qu'ils sont sortis de la ville. Ils connaissaient le son. Ô frères, puisse le Saint-Esprit venir en nos cœurs ce matin, nous donner le son du battement du cœur du Saint-Esprit et de sa puissance. Seulement cela pourra survivre. Le retentissement de la trompette de Dieu et nos cœurs préparés à cette heure indiqueront ce qu'il faut faire. Nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous ne devancerons pas ou nous ne nuirons pas à ceux qui sont endormis, car la trompette retentira. Tous ces soldats dans leur tombe, endormis à travers les siècles, mais quand la trompette retentira, bien qu'ils soient endormis, cela ne les retiendra pas, car la trompette retentira et les réveillera. Ils sont prêts. Ceux qui ne sont pas prêts ne connaissent pas le son. Quand ce son de la venue du Seigneur retentira, il secouera le ciel et l'enfer. Mais ceux qui sont en enfer, ceux qui sont perdus, ne connaissent pas ce son. Ils ne savent pas quoi faire. Mais pour les autres, bien qu'endormis en Christ, ils connaissent ce son certain. Oh, la trompette du Seigneur retentira, et le temps cessera, et ce sera un matin éternel de lumière et de justice, quand les sauvés de la terre se réuniront à leur maison de là du ciel, et quand la liste sera appelée, je veux y être. Mettez aujourd'hui votre nom dans le livre de vie de l'agneau, par le sang du Seigneur Jésus, et ce ne sera pas un son incertain. Maintenant nous entendons venir le bruit des troubles, des bombes atomiques en attendent partout, de la détresse entre les nations, de la perplexité du temps. Pourquoi s'inquiéter de nos emplois? Pourquoi s'inquiéter de nos foyers? Pourquoi s'inquiéter de toute autre chose? Jésus ne nous a jamais dit de nous inquiéter, mais il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez votre tête et réjouissez-vous, car votre rédemption est proche. C'est la certitude du son de l'Évangile. Quand nous voyons le Saint-Esprit venir dans l'Église, commencer à discerner les pensées des cœurs, accomplir ses grands signes et renvoyer l'Esprit au temps du soir, quand les lumières étincellent, nous le voyons venir faire la chose même qu'il a faite à Sodome avant que ça ne brûle. Voyez cet ange, le dos tourné, dire « Pourquoi Sarah a-t-elle ri derrière lui ?» Jésus a dit « Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. » Qu'est-ce? C'est le retentissement de la venue du Seigneur Jésus. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour grand et redoutable détruise le monde, il ramènera le cœur des enfants à la foi originelle, à l'Évangile, à la puissance de Dieu, au vrai Saint-Esprit, à Christ à nouveau, avant que le jour terrible ne vienne. Nous entendons le retentissement de la trompette. Oh là là, qu'est-ce à dire? Réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi sommeiller quand la fin est si proche? Soyons prêts pour cet appel final. S'il donne un son incertain, qui se préparera au combat si c'est confus? Mais ce ne l'est pas. Les gens disent, quelle est cette histoire dont il parle? Le Saint-Esprit qui lit les pensées même des gens et les choses qu'ils font. C'est là la certitude du son de l'Évangile. Christ a dit que c'est ce qu'on verrait. Eh bien, pourquoi toutes ces grandes églises sont-elles là? Christ a dit qu'il en serait ainsi. Ce n'est pas incertain, c'en est la certitude. Nous venons de passer 8 jours consécutifs là-dessus pour savoir que la Bible dit strictement que cette chose ira en ce sens. De grandes dénominations se lèveront. Elles se formeront toutes dans une confédération d'églises. C'est ce que nous avons. Faisant une image à la bête, la hiérarchie catholique, c'est déjà là, une confédération, chaque dénomination y est. Ce n'est pas un son incertain, cela donne un vrai son, c'est un son certain. Nous avons mis une grande confiance en nos Nations Unies. Eh bien, ça ne vaut pas plus que ce qu'était la Ligue des Nations, c'est du pareil. Nous avions une Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Ils allaient être les gardiens du monde entier, ça n'a pas marché. Ce que disent maintenant les Nations Unies est si incertain. Ils ne savent pas de quel côté se tourner. Khrouchtchev aurait enlevé son soulier, tapé sur le pupitre, Et cela a donné quoi de bon? Et tous les autres? C'est l'incertitude des Nations Unies. Les Nations Unies sont très bien comme ils sont, mais il est trop tard. Il est trop tard pour quoi que ce soit du genre. Il n'y a qu'un son qui soit certain, et c'est l'Évangile. Préparez-vous au combat. Quel combat? La venue du Seigneur. Préparez-vous pour le combat contre le mal, alors qu'on le voit assaillir les gens de toutes parts, alors que tout va mal, que la vie de famille va mal, que les Nations Unies échouent, que les nations s'effondrent, que les bombes atomiques nous entourent, que les foyers se brisent, que la maternité diminue, que l'immoralité partout, que la confiance envers les autres manque, et que les dénominations, dans l'ensemble, se font des histoires et se mordent. Que ferez-vous? Soyez certains, préparez-vous vous-même pour le combat. Quand la télévision devient décadente, et que la radio et les journaux, toutes les annonces publicitaires, quand tout ne parle que de cigarettes, de tabac, de whisky, de boissons, de femmes sexy, de sales blagues, de plaisantins dans des programmes télévisés, et que les Américains se meurent de ces choses, comme lors de la soirée chez le roi Nebuchadnezzar, le soir où il y eut une agitation. Ils étaient à une partie dansante où le vin coulait, et leur télévision, si cela s'était passé en ce jour, leurs plaisantins sont sortis, et là est apparue une écriture sur la muraille. Et aujourd'hui, quand nous nous pensions en parfaite sécurité, nous avons les meilleurs scientifiques du monde, nous avons le meilleur de ce qu'il y a dans le monde, et nous venons de découvrir que nous sommes loin derrière dans la course aux missiles. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? Pas seulement une écriture sur la muraille, mais les balistiques des missiles écrits dans le ciel que nous sommes loin derrière, des années derrière. Qu'est-ce qu'il y a? L'écriture est sur la muraille. Et en ces jours-là, cela s'est écrit en une langue inconnue, écrit sur la muraille. Il n'y avait qu'un seul homme dans tout le royaume qui pouvait l'interpréter. Il avait le don d'interprétation, et il a interprété, et il a dit, « Tu as été pesé dans la balance et a été trouvé léger. » Dieu vous a envoyé une nation de gens parmi vous que vous appelez exaltés. Vous êtes allés les rencontrer et les avez déshonorés, mis à mort, expulsés. Et vous avez pris vos dieux et vos idoles, ces choses, et c'est par ces choses que vous avez adoré et vous avez vécu de délices. Maintenant, vous êtes allés prendre les vases même du temple de leur Dieu et êtes venus faire des farces sur eux, vous moquer de l'exalté, du prédicateur chauve et ainsi de suite. Et Dieu en a eu assez de ça. Et l'heure de votre ruine est proche. La nation même qui allait les prendre attendait à leur porte. Peu de temps après, ils étaient tués, leurs femmes retranchées, leurs gardes, leur armée et tout étaient investis, pesés dans la balance et trouvés légers. Et notre radio et notre télévision sont remplis de blagues et de souillures, de faussetés, de méchancetés, que Dieu en a marre de tout cela. Quand l'Évangile, le véritable Évangile de l'Église du Saint-Esprit, est prêché de long en large la nation, démontrant la certitude de Jésus-Christ et de sa venue, au point que le temps est venu où Dieu écrit dans nos cieux, pesé dans la balance et trouvé léger. Amen. Nous sommes dans une situation terrible. Écoutez le son certain, pas les Nations Unies incertaines. Oui, monsieur. Même que l'autre jour, lors des élections, ils ont dit que lorsqu'ils ont compté les votes du monde politique, ils ont dit, nous avons maintenant un appareil pour que tous usent d'honnêteté, parce que vous n'avez qu'à tirer un petit levier et ça inscrit votre candidat. Vous le rabaissez, ça fait un petit clic et ça inscrit votre candidat. On a découvert que ce n'est pas une certitude. Monsieur Edgar Hoover a exposé au grand jour le Parti démocrate l'autre jour. Après avoir installé leur appareil, chaque fois qu'ils votaient pour Monsieur Nixon, ils devaient de même voter pour Monsieur Kennedy. Et pourquoi n'arrêtent-ils pas cela, pensez-vous, s'ils ont découvert que ça se passe comme cela? Pourquoi? Eh bien, il n'y a pas de certitude à cela, non. Vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Hoover? Voyez, tout ça, tout est incertain. Vous ne pouvez pas dire qui a vraiment été élu, si c'est Kennedy ou Kennedy a été déclaré élu, mais je ne sais pas si vraiment il l'était. Là, je ne suis pas un politicien, je ne sais rien de la politique, mais je sais reconnaître le vrai du faux. J'ai suffisamment de sens pour savoir que ce n'est pas honnête. Quand c'est devant nous, l'homme approuvé par le FBI, qui qu'ils avaient truqué les appareils. Ce n'est pas l'autre parti qui l'a fait, mais c'est le parti de Kennedy qui l'a fait. Pourquoi ça doit être ainsi? Rien en ce monde ne peut tenir en dehors du royaume de Dieu, car tout royaume est pesé dans la balance et trouve léger. Notre nation, pourquoi ça? Et il n'y a pas si longtemps, on avait un grand arbre, et j'avais l'habitude d'aller m'y asseoir. Et je me suis dit, cet arbre, quand je serai devenu vieux, si j'y parviens, je vais venir m'asseoir sous ses branches. Ce n'est plus qu'un chicot maintenant. Là où je vivais, j'ai vu mon père sortir et il était du Kentucky et il faisait de la coupe de bois et toutes ces choses. Un petit homme d'environ 65-70 kilos, mais fort. Oh là là! Monsieur Coutts, d'ici, m'a dit l'avoir vu charger un rondin de frêne de 400 kilos tout seul. C'était vraiment un homme fort. Je le voyais. Il avait l'habitude de se relever les manches pour se laver dehors devant un bout de miroir cassé fixé à un pommier. Et sûrement qu'il y a des gens de l'Indiana qui ne savent pas comment il nous fallait s'arranger là-bas. On avait un vieux baril d'eau près de la pompe et ma mère avait mis là un vieux sac, un sac pour la farine, et on l'utilisait comme serviette. Elle l'avait tant soit peu décoré en tirant quelques fils à son extrémité. Elle me débarbouillait puis m'essuyait avec cette serviette. La peau nous arrachait presque. C'était une vieille toile rugueuse. Elle me lavait et m'essuyait avec ça. Maintenant, je voyais mon père rouler ses manches et faire sa toilette. Et oh, je voyais ses muscles. Je dis, vous le savez, il vivra sûrement 500 ans, il est si fort. Mais vous savez quoi? Il est mort. Il avait 52 ans. Pourquoi ça? Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Je me suis trouvé à Rome, où le grand César s'était tenu, où il avait emprunté ses rues avec la masse des gens en grande pompe et gloire et tout ce qu'ils avaient. Et savez-vous où l'on trouve leur royaume? À 6 mètres sous terre. 2000 ans l'ont enfoncé. J'ai été au Caire, en Égypte, où le grand pharaon s'est tenu. Un jour, celui qui avait persécuté le peuple de Dieu, qui avait fait d'eux des esclaves. Leurs ruines gisent à 6 ou 7 mètres sous la terre. J'ai été à Londres, en Angleterre, où toutes les grandes hiérarchies d'archevêques se sont tenues. Et j'ai vu là aussi que cela s'est enfoncé dans la terre. Qu'est-ce à dire? Nous n'avons ici pas de cité permanente, mais nous en cherchons une à venir. Pourquoi tous ces royaumes? C'est simplement pour vous dire qu'il nous parle de celui qui est éternel. Pourquoi l'arbre est-il beau? Il attend la pleine manifestation des fils de Dieu. Quand cet arbre pourra vivre à jamais, il y a un royaume à venir. Et la Bible a dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous en attendons une. Et là, Dieu nous a donné un royaume qui ne peut être ébranlé. Tout sur terre est chancelant, ébranlable, ça s'effondre, tout est en décadence. Nous vivons dans un monde qui est en péril. Tout est en péril. Les arbres sont en péril, le gazon est en péril, les fleurs sont en péril, les villes sont en péril, le monde est en péril, vous êtes en péril, tout est en péril, je suis en péril, tout est en péril. Ce certain rayon acide dans l'air, ces éléments chimiques de l'air, juste avant l'érection du grand pont ici, je l'avais vu 22 ans avant qu'il ne soit construit, j'avais vu des hommes perdre leur vie sur ce pont. J'avais parlé de la construction de ce pont. Et ma mère avait voulu m'emmener chez le docteur, pensant que j'avais des spasmes nerveux. Et je lui avais dit, j'ai vu un pont sur le fleuve, j'ai compté les hommes. 22 ans plus tard, le pont a été érigé, et ce même nombre d'hommes a perdu la vie. Je crois qu'ils étaient 16. Maintenant, j'ai pensé, quand ils ont fixé les gros piliers, ce pont-là est planté là pour toujours. Oh, ils l'ont peint à 3 ou 4 reprises, et la rouille est après lui. Qu'est-ce à dire? Les rayons de l'air le brûlent. Une belle jeune fille de 16 ans, assise dans une église, mâchant son chewing-gum et faisant la pitre et se malmenant. Une fois dehors, elle enlève de ses vêtements pour avoir l'air sexy, pour se trémousser. Et il ne faudra que quelques couchers du soleil, elle sera vieille et ridée et sa chair sera flasque. Et ce petit corps qu'elle trémoussait et qui laissait un esprit vivre la contrôler, jetait sa moralité au chien et aura à répondre au jour du jugement pour adultère. Quiconque regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis adultère avec elle, ne réalisant pas qu'elle n'est rien que de la poussière et qu'elle retournera à la poussière, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce à dire? Si seulement elle le réalisait, s'arrêtait, c'est là un son incertain. Eh bien, un tel à la télévision, un tel à l'école, qui essaye d'imiter certaines petites personnalités à l'école, ne permettez jamais que ce soit là vos exemples. Regardez à Dieu. Oh, des sons incertains, les élections, ce temps d'incertitude est là maintenant plus que jamais. Si nous avions du temps, allons voir dans la Bible. Je vois les sœurs prendre en note les Écritures. Maintenant, en 2 Timothée 2, lisons à partir du chapitre 3. Écoutez ceci. L'Esprit dit ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est là le Saint-Esprit que vous entendez dans l'Église ce matin, qui parle depuis ce temps reculé, depuis 2000 ans, en l'an 66 de notre ère. Car les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Considérons ce jour-là aujourd'hui. Vous parlez de saints? Ils vous appellent des saints qui se roulent par terre? Voyez les enfants ce qu'ils font. On parle de délinquance juvénile. En ceci, je ne suis pas de votre avis, les parents. Ce n'est pas de la délinquance juvénile, c'est de la délinquance parentale. Voyez, c'est ce que c'est. Certains d'entre vous ont dit que ces mamans du Kentucky étaient ce qu'il y avait de plus illettré. Ces vieilles mamans, avec leurs capelines sur la tête, comme cela. On a dit d'elles qu'elles étaient illettrées et ignorantes. Elles ne sont peut-être pas ultra chics, mais je vous dirais qu'il y ait donc une de leurs filles qui rentre à la maison, comme l'une des vôtres le fait parfois, toute débraillée, du rouge à lèvres plein le visage et toute échevelée. Elles ne lui diront pas, « As-tu eu du bon temps, ma jolie ?» Elle l'agripperait par je ne sais où, et elle se souviendrait de la dernière fois qu'elle est sortie. Et vous l'appelez illettré? Oui, c'est ça. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils détestent les gens qui essayent de vivre correctement, voyez? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, ils dépenseront des millions de dollars pour aller à un tournoi de bal ou quelque chose du genre, ou là où une vedette de cinéma donne un certain spectacle ou autre, comme les anciens cirques romains le faisaient il y a des années. Mais quand viendra le temps de traverser la rue pour aller à une réunion du Saint-Esprit, ils resteront assis sur leur perron et riront de ça. Eh bien, dites-vous, frère Branham, ceux-là sont des communistes. D'accord, allons voir ce que le 5e verset en dit. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant la puissance de quoi? De la puissance de Dieu. Ayant l'apparence de Dieu, mais reniant la puissance de Dieu. Allant à l'église et appartenant à une dénomination, mais reniant l'existence même du Saint-Esprit qui est dans l'église. Faisant en sorte qu'ils agissent et font les mêmes choses qu'ils ont faites au commencement. Oh là là! Voyez comment est la malédiction confessionnelle? J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'espère plutôt que vous le verrez à la lumière de ce que j'essaye de dire. Voyez? Maintenant, remarquez ceci. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi! Que dit-il à l'église? Éloigne-toi de ces hommes-là! Éloignez-vous de ça! Sortez de cela! C'est exact. Car écoutez, lisons un autre verset ou deux. Écoutez ça, car considérez comment est ce genre. Voyez si c'est incertain. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ est la vérité. Il a dit « Je suis la vérité ». Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Les femmes avec toutes sortes de sociétés de femmes qui font des couvertures, qui se réunissent, font des plaisanteries, qui organisent des soupers, des repas pour payer le pasteur et ainsi de suite, et qui ne peuvent jamais arriver à la connaissance de savoir que Jésus-Christ existe aujourd'hui dans la puissance de sa résurrection et du Saint-Esprit. Vous voyez? Jamais. des femmes d'un esprit faible et borné. Là, il ne parlait pas de vous, les sœurs. Il a dit des femmes d'un esprit faible et borné. C'est ça. Agitées par des passions de toute espèce. Ce n'est pas votre cas, et je suis fier de vous, mes sœurs. Il a dit, ne pouvant jamais. Combien incertain, alors que le son d'une dénomination formaliste, combien incertain est le son de l'Église aujourd'hui? Qui sait quoi faire? Laissez-moi vous donner un aperçu de l'Église aujourd'hui. Il y a la crainte d'une guerre, il y a des problèmes partout, et les gens se précipitent à leur Église et ne peuvent y trouver là de réponse. Le soir de Noël, je vais prêcher sur ce sujet. Pas de réponse à ce qu'était l'étoile parue dans l'Est. Maintenant, remarquez, oh là là, c'est là, et ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas quoi en dire. Pourquoi? La seule chose à laquelle ils peuvent se référer, c'est « nous avons appris au collège ». L'Église ne dépend pas de ce qu'ils ont fait au collège, mais il s'agit du Saint-Esprit qui vit dans l'Église, qui la conduit et la guide, et qui lui montre au préalable les choses à venir, comme il l'a fait du temps de Titus. Il les a avertis des choses à venir, de fuir la colère à venir. Oh là là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Dites-moi, y a-t-il quelque chose alors? Je ne veux pas vous garder trop longtemps ce matin, mais y a-t-il quelque chose de certain? Vous ayant donné tant de choses qui sont incertaines, y a-t-il quelque chose de certain? Y a-t-il quelque certitude quelque part? Eh bien oui, et j'en suis tellement reconnaissant. Y a-t-il quelque chose de certain? Je vous dirai ce qui est certain, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez le noter, vous n'avez pas à aller à ce verset, mais si vous le voulez, c'est en Matthieu 24, 35, où Jésus parle de ses jours et de ce qui arriverait. Matthieu 24, 35, il dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Et cela est certain, n'est-ce pas? Amen. Voilà une chose qui est certaine, c'est sa parole. Il y a donc une chose. Nous voyons que nous ne pouvons pas bâtir sur notre Église, nous ne pouvons pas bâtir sur notre nation. C'est trop incertain. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Vous allez certainement avoir à le faire. Quelqu'un disait, une chose certaine, c'est les impôts. Oh non, les impôts, ce n'est pas si certain que ça. Le Seigneur peut venir, ils peuvent éliminer ces choses et tout sera réglé du coup. Ils ont dit, la mort est certaine. Non, monsieur, la mort n'est pas certaine. De fait, elle ne l'est pas. Il pourrait y avoir un enlèvement, et là, il n'y aurait pas de mort. La mort n'est pas si certaine. Non, non, pas en ce jour. Elle l'était il y a des années, mais elle ne l'est plus maintenant. La mort n'est pas si certaine que ça. Et de plus, je connais un homme qui a marché avec Dieu, que je vous montrerai comme exemple, et un jour, il s'est fatigué de marcher. Aussi, il est devenu très léger et a commencé à s'élever et il est rentré à la maison avec Dieu. Voyez, vous savez tous de qui je parle. Enoch. Oui, Enoch. Et que représentait-il? Il était un type de l'Église de ce jour. Et Noé, lui, est un type comme nous l'avons vu la semaine dernière dans notre leçon. Noé, un type d'Israël qui est porté ou sera au mont de la Transfiguration là-bas en Palestine, qui veille. Quand Noé a vu qu'Enoch était manquant, il s'est dit, que lui est-il arrivé? Qu'est-il advenu d'Enoch? Où est-il? Noé était le petit-fils d'Enoch, et il a dit, où est-il? Qu'est-il advenu de lui? On ne peut plus le trouver. Noé s'est mis à construire l'arche, il a su que l'heure était venue suite à cela. Et quand maintenant l'Église sera enlevée, et que les gens diront, eh bien, j'ai appelé la police, j'ai appelé partout. Elle était assise à table, elle a disparu. Eh oui, je ne sais pas du tout ce qui est advenu d'elle. Et puis, c'est pas tout, la police nous dit que depuis le matin, ils ont reçu 500 appels du même genre. Que s'est-il passé? C'est terminé pour les gentils, tout à fait. Veillez, la parole de Dieu est certaine, les cieux et la terre passeront, Matthieu 24, 35, mais les promesses de Dieu ne passeront point. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront. Vous dites les cieux? Oui. En Apocalypse 21, Jean a dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. C'est ce que c'était qui s'est parée pour son époux. Oh, c'est là où je veux être. Dieu aide-moi à y être en ce jour-là. Oui, les promesses de Dieu sont certaines, nous le constatons. Maintenant, faisons un petit voyage. Revenons découvrir quelque chose pour voir qui étaient ceux qui croyaient en ces temps-là et comment ils s'en sont sortis en attribuant à la parole de Dieu un son certain. Revenons au début de la Bible, à deux ou trois personnages, et nous serons prêts pour la ligne de prière dans les 15 prochaines minutes. Maintenant, venons-en au premier. Prenons frère Noé au commencement. Noé dans la Genèse. Nous constatons qu'il y avait deux ou trois sons, plusieurs sons étant entendus du temps de Noé. L'un d'entre eux, Noé a entendu la voix de Dieu qui disait « Il va pleuvoir ». Écoutez, habituellement, Dieu vous dit des choses qui sont absolument bizarres relativement aux choses du monde qu'il est. Il le fait pour confondre le monde, voyez. Ils se confondent dans leurs pensées. Ils disent « Une bande d'exaltés, ô bonté divine ». Vous me dites pas, vous pensez que ce Dieu, le Saint-Esprit, vivrait dans des gens comme eux? C'est aussi ce que Balak a dit, et Balaam, après avoir vu Israël, il a dit, tout ce qu'il y avait de mauvaises affaires, ils l'ont fait. Mais il n'a pas vu le rocher frappé, et le serpent d'airain, et les signes et les miracles de guérison, et ces choses dans le camp. De prime abord, il n'était pas différent, mais Dieu a fait quelque chose de si marquant. Dieu est radical. Ça paraît étrange, mais il l'est. Nous le verrons par quelques-uns des personnages. Voyez Noé. La Bible dit que du temps de Noé, il ne pleuvait jamais. Dieu arrosait la terre. Par la terre, il n'avait jamais plu. Et voici qu'ici, il y avait ce fanatique en train de construire un gros bateau, l'équivalent de deux pâtés de maison. Un bateau qui flotterait alors qu'il n'y avait rien qui le ferait flotter. Il n'y avait pas d'eau, pas même une goutte. Au plus, il y avait des ruisseaux. Pourquoi construisait-il ça et le goudronnait-il au-dedans et au-dehors? Pourquoi, disait-il, d'où viendra cette eau, Noé? De là-haut. Je suis un scientifique et je peux te prouver qu'il n'y a pas d'eau là-haut. S'il y en avait, elle tomberait à l'instant où l'on se parle, il n'y en a pas. Je peux te le prouver scientifiquement. Eh bien, répondit Noé, tu sais, Dieu est capable d'en mettre un peu là-haut, tu vois, c'est ça. Dieu a dit que ça viendrait de là et ça viendra de là. Qu'est-ce que tu fabriques là, Noé? Je me prépare, tu vois, je me prépare. Là, la science donnait un son de cloche. La science disait, cette bande d'exaltés sur la colline, ils sont vraiment fous. Ils ont perdu la tête, ma foi. Ils sont en train de se découper un gros bateau. Voulez-vous bien me dire ce qu'ils vont faire avec ça? Si on faisait converger toutes les sources d'eau du monde au même endroit, il ne suffirait pas à mouiller la coque. Et voici qu'ils disent, il va flotter et l'eau va venir d'en haut. Mais Noé, même si la science disait que c'était fou, écoutait ce son certain. Dieu avait dit, je vais détruire le monde par l'eau. Il n'y avait rien de confus en cela. À cette époque, cela semblait incertain, mais c'était la parole de Dieu, peu importe combien ridicule cela semblait. Dieu a dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Il n'y a rien de confus en cela. Croyez en cela. Dieu a dit, je donnerai à celui qui veut le Saint-Esprit. Il est venu, il n'y a rien de confus en cela. Vous dites, je suis un buveur, je suis une prostituée. Ça m'importe peu que celui qui veut vienne. C'est rien de confus. Je préférerais qu'il dise cela à ceci. Quand William Branham viendra en 1960, je lui donnerai les fontaines d'eau de vie. Bon, cela aurait été vraiment bien. J'aurais pu croire qu'il s'agissait de moi. Mais il aurait pu y avoir deux William Branham, et je n'aurais pas su s'il se serait vraiment s'agit de moi. Mais quand il a dit que celui, je sais qu'il s'agit de moi, de toute façon, parce que je suis parmi ceux qui voulaient venir, voyez. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est certaine. Maintenant, pour ceux du dehors, le monde scientifique, cela paraît vraiment confus, parce qu'ils ont dit, qui aurait pensé? Regardez ça, il y a la lune la nuit, là sont les étoiles, là sont les atmosphères. Et vous savez, ils en savaient plus en ce temps-là qu'on en sait aujourd'hui. C'est en ces jours-là qu'ils ont érigé les sphinx. Pourrions-nous les bâtir de nos jours? Cela prendrait 16 wagons pour transporter une seule patte. Et c'est haut comme un demi-pâté de maison. Pourrions-nous bâtir cela? C'est en ces jours-là qu'ils ont bâti la pyramide. Une seule de ces grosses pierres pèse des centaines de milliers de tonnes. Eh bien, on n'a rien dans ce monde qui puisse bâtir ça. On n'a pas de puissance hydraulique au carburant ou autre qui pourrait lever ces pierres à cette hauteur. On ne pourrait avoir de machines suffisamment puissantes. C'est si colossal et c'est si parfait qu'on ne s'est même pas servi de ciment. Ils les ont taillés au sol et les ont levés par quelques moyens. Et vous ne pourriez pas glisser une lame de rasoir entre elles comme cela. Elles sont tellement près les unes des autres, plus intelligentes que nous le sommes aujourd'hui. On utilisait la teinture en ce temps-là. On pouvait faire une momie en ce temps-là. On ne pourrait pas en faire de nos jours. On ne pourrait plus momifier un corps humain. Nous ignorons le produit qu'il faudrait mettre dans les corps pour les faire paraître naturels. Ils utilisaient la peinture, ils en teintaient les vêtements en ce jour-là que l'on n'a pas aujourd'hui. On ne pourrait rien produire de pareil. Il y a plein de choses qu'ils avaient alors et qu'on n'a pas aujourd'hui. Ici, il n'y a pas longtemps, ils ont déterré une moderne station hydraulique, ici même au Mexique, qui avait été engloutie durant la période antédiluvienne. Une moderne station hydraulique beaucoup plus perfectionnée que ce que l'on a aujourd'hui. Voyez, ce qui arriva du temps de Noé, un peuple astucieux comme ils étaient, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Une autre génération astucieuse. Ces gens étaient intelligents, d'une science probablement plus développée, qu'ils pouvaient mesurer la distance d'une étoile à l'autre. À ce point intelligent qu'ils ont pu ériger géographiquement au bon emplacement cette grande pyramide, et si bien centrée sur la Terre que peu importe la position du soleil, on ne trouve jamais d'ombre autour. Le matin, le soir, le midi, de tous côtés, il n'y a pas d'ombre, voyez. J'y ai été. Maintenant, considérez tout ce qu'ils ont fait et les compétences qu'ils avaient. Et pouvez-vous vous imaginer, il n'avait jamais plu et rien ne présumait qu'il pouvait pleuvoir. Comment cet homme a-t-il jamais pu faire passer ce message? Il ne l'a pas pu, c'était cela. Mais comme Noé se tenait dans la porte de l'arche et prévenait les gens d'une destruction imminente, il en est de même du prédicateur de l'Évangile, né de nouveau, aujourd'hui, qui se tient à la porte, Jésus-Christ, enchâssé par le Saint-Esprit, mettant en garde les gens d'une destruction imminente. Bien sûr, comme ce qui arriva du temps de Noé, c'est aussi la situation que nous vivons aujourd'hui. Là, comment la science a-t-elle pu dire la pluie venir de là? Mais vous voyez, Dieu savait comment faire venir la pluie de là. Il a soit fait se produire un tremblement de terre où quelqu'un avait la puissance atomique et ils s'en sont servis et fait éclater une partie de la terre. Et cela a fait s'incliner la terre, l'a fait sortir de son orbite et maintenant elle penche en arrière. Après coup, la chaleur de la terre et la froideur de la terre, depuis le soleil est plus loin que le soleil, ont formé des nuages. Il est Jéhovah Jireh. Il peut pourvoir lui-même à tout ce qu'a dit sa parole. Il peut se pourvoir d'une église. Il n'a pas à m'avoir moi. Il n'a pas à vous avoir vous. Non, il n'a pas besoin de cela. Il peut pourvoir. Quelqu'un d'autre peut prendre votre place. Prenez garde à ce que personne ne prenne votre couronne. Il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Si vous vivez, vous devrez l'avoir, parce qu'il est le seul, comme l'a dit Pierre. Quand il a dit « Voulez-vous aussi partir ?» Quand il a dû leur annoncer la vérité, il était un grand homme quand il guérissait les malades. Oh, et quand les signes et les miracles suivaient, c'était un grand homme. Mais quand il a commencé à leur parler selon la vérité, alors qu'est-il arrivé? Là, on l'a pris pour un fanatique et on s'est poussé de lui. Il s'est tourné vers les disciples. Rappelez-vous, il était très indépendant parce qu'il était Dieu. Il s'est tourné vers eux et il a dit, « Vous, est-ce que vous voulez aussi partir ?» Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Où irions-nous? Car tu es celui qui a les paroles de vie éternelle et nous en sommes convaincus. » Vous voyez, il n'y a pas d'incertitude en cela. Nous sommes certains que tu es celui qui la possède. Nous ne sommes pas ballottés par tout vent de doctrine. Nous savons que tu as les paroles de vie éternelle, parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est en lui. C'est exact, n'est avec lui. Amen. Nicodème a fait la même remarque. Disons ceci alors, est-ce que le son auquel écoutait Noé était confus? Non, monsieur, il était sûr. On a eu la destruction antédiluvienne qui a détruit le monde entier. Dieu a fait pleuvoir comme il l'avait dit. Comment ça? C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Le monde scientifique a coulé et a été détruit. Voyez, la chose même qui a sauvé Noé a tué ses critiques. Saviez-vous cela? L'eau même. Sans eau, Noé n'aurait pas pu être sauvé. Seule l'arche a flotté. Donc ce qui a fait flotter l'arche est-ce qui a noyé les critiques? Est-ce même Saint-Esprit aujourd'hui, dont les gens se moquent, sauvera l'Église et condamnera les critiques? Cette chose même, voyez, cette chose même, ce qui sauve le croyant et ce qui condamne l'incroyant. Tout à fait. Aussi, voyez-vous, ayez foi en la parole de Dieu. C'est la seule chose sur quoi on peut se tenir et qui est certaine. Ce que dit Dieu est certain. Croyez-y simplement. Prenons maintenant l'autre personnage du temps de Moïse. Moïse avait tenté par les programmes éducatifs, il avait tenté par les programmes militaires de délivrer Israël, parce qu'il savait être né dans ce but. Et l'heure était maintenant venue pour lui d'agir. Mais il a essayé par ses propres moyens, par sa formation, et formant sa grande société, ou quoi encore, faisant appel à l'aspect militaire, de sa propre éthique, il a failli. Là, écoutez attentivement. Mais un jour, Dieu s'est emparé de lui par un buisson ardent. Et voyez à quel point Dieu a rendu cet homme déraisonnable. Dieu l'a attiré au buisson ardent et lui a parlé. Maintenant, Dieu ne lui avait jamais parlé auparavant. Il ne le connaissait que par la lecture. Donc, Dieu lui a parlé. C'est la raison pour laquelle Noé savait de quoi il parlait. Dieu lui avait parlé. C'est comme ça qu'il le savait. Il l'avait entendu de Dieu. Voyez-vous? Mais un jour, quand Moïse, entraîné, cultivé, oh là là, était-il instruit? Oh! Et c'était tout un militaire, il s'est dit, avec toutes mes études, j'ai un doctorat en philosophie, un doctorat en théologie, un double doctorat et tous ces diplômes auxquels on peut se référer. Là, je vais à coup sûr savoir m'y prendre, parce que je suis le cerveau de l'Égypte. Ça m'est égal de quoi vous êtes le cerveau, c'est pas bon. Aux yeux de Dieu, c'est de la folie. Votre savoir est de la folie pour Dieu, voyez, parce que mes voies sont plus élevées que les vôtres et mes pensées plus élevées que les vôtres, dit Dieu. Voyez, donc vos meilleurs cerveaux, comme Paul a dit, je ne suis pas venu à vous vous prêchant par un discours persuasif comme le fait la sagesse, parce que si je l'avais fait, vos espoirs auraient été bâtis. Pourtant, Paul aurait pu le faire, parce que c'était un homme intelligent. Il a dit, je pourrais le faire. Mais, s'il en était le cas, vous reposeriez sur la philosophie de l'homme. Mais je suis venu à vous dans la puissance et la résurrection avec le Saint-Esprit pour que votre foi soit en Dieu. Voilà, car l'autre chose est un son incertain. Mais ceci est certain et vrai. Donc Moïse avait essayé avec un son incertain, avec ses éthiques. Son instruction était incertaine. Mais un jour, il a entendu un son certain. Oh, là, je me sens religieux. Oui, il a entendu un son certain, car il a vu une lumière suspendue dans un buisson. Enlève tes souliers là où tu te tiens, car c'est une terre sainte. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, et je me suis rappelé ma parole. Amen. Il n'y a rien d'incertain en cela. Je me rappelle ce que j'ai dit à Isaac, Jacob et Abraham et tous les autres. Je me souviens de mes promesses. Je ne les oublie pas. J'ai entendu les cris de ces gens et l'heure est venue. Je vais t'envoyer, Moïse. Et Moïse a dit, comment vais-je jamais y arriver? Écoutez, je serai avec toi. Il n'y a rien d'incertain en cela. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Voyez, je serai avec toi. Il n'y a rien d'incertain en cela. Je serai avec toi. Des années plus tard, il a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Comment vais-je venir à bout de ces grandes villes fortifiées? Ce n'est pas à toi de le figurer. J'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Continuez d'avancer, voyez. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'y a rien d'incertain en cela. Je serai avec toi. Je serai certainement avec toi, a dit Dieu à Moïse. Maintenant, je veux que vous remarquiez que lorsqu'un homme entend la voix de Dieu, entend personnellement la parole de Dieu, bon, vous pouvez l'entendre, vous dites, eh bien, Dieu doit venir me rencontrer. Oui, monsieur, je pourrais rester derrière cette chair à prêcher jusqu'à ce que je tombe mort, et dans 10, 20, 30, 50 ans d'ici, vous ne l'auriez toujours pas entendu si Dieu ne vous la révèle pas. Ça peut être directement à votre place. Vous n'avez pas à être près d'un buisson ardent. Vous êtes peut-être plus près que vous pensez l'être. Restez simplement assis et laissez Dieu vous parler dans la parole. Je dois quitter ce genre de vie que je vis. Je dois être en règle. C'est Dieu, Dieu dans sa parole se faisant connaître à vous. Je devrais mettre ma vie en règle avec Dieu. C'est Dieu, c'est certain. Je devrais mourir un jour. Certainement, vous allez mourir un jour. Je devrais en répondre au jugement. Certainement, vous allez en devoir en répondre au jugement. Où donc est votre jugement? Là-bas au trône où vous n'aurez aucune miséricorde? Ou ici au trône où vous pouvez obtenir miséricorde? C'est à vous de choisir. C'est l'arbre comme au jardin d'Éden, celui de la vie et celui de la mort. Si vous le reportez à là-bas, vous mourrez. Prenez-le maintenant et vous vivrez. Vous en êtes le juge, voyez, vous êtes celui qui devez en juger. Vous en êtes ici le juge, mais là-bas c'est lui qui le sera. C'est vous qui maintenant êtes juge, à savoir si vous le voulez ou non. C'est lui qui jugera là-bas si vous l'avez reçu ou non. Vous aurez à prendre la décision de ce que vous allez faire, mais ça vous regarde. Devant tout homme, comme pour Adam et Ève, est placé le bien et le mal, et c'est à vous de décider. Je serai avec toi, certainement. Comment pourrais-je venir dire à mon patron que j'ai été sauvé et rempli du Saint-Esprit? Je serai avec toi, certainement. Comment vais-je faire pour dire à mon mari que je vais arrêter mes méchancetés? Comment vais-je faire? Je serai avec toi, certainement. Comment vais-je faire pour dire à ma femme que je l'ai trompée et que j'ai fait des choses mauvaises? Comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour garder ma famille en face après cela? Ils ne me croiront pas quand ils savent que j'ai juré, que je me suis mal conduit et toutes ces autres choses. Et venir leur dire que je suis un chrétien, je serai avec toi, certainement, a dit Dieu. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé. Voyez Moïse, et combien cela l'a fait agir avec assurance. Qu'a-t-il fait cet homme de 80 ans? Vous dites, frère Branham, j'aurai bientôt dans la cinquantaine, un vieil homme. Oh, votre âge n'a pas d'importance, ça n'a rien à voir avec cela. Le jour où Dieu peut vous apaiser assez pour vous parler et que vous entendez sa parole, c'est le jour où il vous parle, peu importe votre âge. Comment vais-je faire, frère Branham? Considérez Moïse à 80 ans. L'Égypte avait conquis le monde, il détenait tous les secrets militaires et le reste, et Moïse fit monter sa femme sur une mule, mit Guershom sur elle, et il partit le lendemain, un bâton crochu en main, sa longue barbe blanche comme ceci et sa tête chauve reluisait probablement comme cela en tirant sa vieille mule. Il criait « Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel !» Quelqu'un lui a demandé « Tu vas où, Moïse ?»« En Égypte, en prendre possession. » Combien ridicule! Mais quand un homme parle à Dieu et qu'il porte en lui la voix de Dieu et la parole de Dieu, « Si vous demeurez en moi, Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. » Voyez, il n'y a rien d'incertain, cela devra se faire, tout à fait, c'est rien de confus. Moïse a dû dire à Dieu, comment vais-je faire une invasion tout seul? Comment vais-je faire, moi, un vieil homme de près de 80 ans? Comment vais-je pouvoir descendre là et combattre une grande armée d'un million d'hommes? Je serai avec toi, certainement. C'est tout ce qu'il lui fallait entendre. Le voilà parti, il y va, et il en a aussi pris possession. Pourquoi? Il était certain que le son qu'il avait entendu était vrai. Et le son que vous entendez ce matin est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Les enfants hébreux à la fournaise ardente, comment savaient-ils qu'ils allaient être délivrés? Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais néanmoins, nous sommes certains qu'il le peut. Il n'y a pas d'incertitude en cela. Nous connaissons sa volonté et nous ne nous inclinerons pas devant votre statut. Nous n'allons pas participer à ce festin. Nous n'allons pas fumer ces cigarettes. Nous n'allons pas boire cette boisson forte. Nous n'allons pas mentir. Nous n'allons pas commettre adultère. Nous n'allons plus tromper nos femmes, nos maris. Nous sommes certains que Dieu peut nous en délivrer. Amen. Et si c'est le cas, ils vont vous congédier des jeux de bingo. Ils vont vous congédier des parties de cartes et des maisons pour femmes. Je me soucie peu de ce qu'ils me font. Dieu est capable de me délivrer. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire que vous n'êtes pas à la mode. Si vous portez vos cheveux longs, vos jupes longues et agissez comme des dames, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler vieille mode. Je ne me soucie guère de ce qu'ils font, mais Dieu est capable de me délivrer. Et c'est ce que je poursuis aujourd'hui. Dieu est capable de me délivrer, c'est tout. Eh bien, si vous ne portez pas le short cet été, que va dire Suzy? Je ne m'arrête pas à ce que Suzy dit, c'est ce que Dieu dit qui m'intéresse. Parce que le son que rend Suzy n'est pas certain, mais Dieu est vrai. C'est un son certain. Ainsi, il les a délivrés. Combien certain était Abraham, après 25 ans d'attente, d'avoir cet enfant que Dieu lui avait promis? Pouvez-vous imaginer Abraham, un vieil homme de bonne réputation, devant le peuple, et un jour Dieu lui a parlé, lui a dit, « Abraham, je vais faire de toi un père des nations. Je vais changer ton nom et t'appeler Abraham, d'Abraham en Abraham. Et je vais appeler Sarah, princesse, plutôt que Sarai. Je vais changer son nom. Et vous êtes tous les deux âgés. Tu as 75 ans, elle en a 65. Tu vis avec elle depuis ses 16-17 ans parce qu'elle est ta demi-sœur. Tu vis avec elle depuis tout ce temps. Tu l'as mariée quand elle n'était qu'une jeune fille. Toutefois, tu n'as pas d'enfant, mais tu en auras. Je vais te donner un enfant. Me crois-tu, Abraham? Oui, Seigneur, je te crois. Eh bien, ils vont maintenant te taxer de fou. Oh, peu importe, Seigneur, ça ira. Dis-leur que tu auras un enfant. Il a saisi Sarah par le bras et lui a dit, ma chérie, tu sais quoi? Tu vas avoir un enfant. Quoi? Un enfant? Oui. Comment le sais-tu? Dieu me l'a dit. Amen, c'est vrai, chérie. Nous allons la voir. Tu sais ce que je vais faire? Donne-moi un peu d'argent. Je vais aller chercher des petites bottines et autres trucs. On va se préparer à la voir, tu vois, parce qu'il est en route. Oui, monsieur, elle est donc descendue en ville. Je les entends dire à leur médecin, docteur, vous savez quoi? Nous aimerions que tout soit prêt à l'hôpital. Nous allons avoir un enfant. Quel est votre nom déjà? Abraham. Oui. Oui, monsieur, vous allez devoir m'excuser, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Il s'est retiré et a dit, hey, vous feriez mieux de le remettre aux autorités, de faire examiner ce vieux, il doit avoir perdu la tête, à 75 ans, et sa vieille, celle qui est assise avec un châle sur les épaules, là, la petite grand-mère, elle dit qu'elle va avoir un bébé. C'est bien là le fils de Terah qui est venu de Shinéar pour s'installer à la tour. Est-ce bien son fils? Oui. Pauvre lui, il a trop pris de soleil. Une insolation probable, un peu maboule, hein? Mais c'est là un son incertain. Abraham, lui, avait un son certain. Amen. Dieu l'a dit. Les autorités ont dit, c'est un homme loyal. Je sais que bien des fois, il a aidé des veuves. Il vient en aide comme ça. Elle, elle est des plus gentilles. Je ne veux pas les enfermer ou quoi que ce soit. On ne va pas leur mettre des chaînes et agir comme cela avec eux. Ils deviendraient pires. On va plutôt garder l'œil sur eux. Et ils ont continué à les surveiller, comme c'est incertain comme son. Mais Abraham savait que ce son-là était certain. Le premier mois passa. Comment te sens-tu, chérie? Y a-t-il du neuf? Maintenant, rappelez-vous, vous les dames, il y avait belle Lurette qu'elle n'avait plus ses 28 jours depuis sa quarantaine, peut-être. Et ici, elle en avait 65. Comment te sens-tu, chérie? Oh, chérie, rien de neuf. Gloire à Dieu, on va la voir de toute façon. Rien d'incertain. Certain, je suis positif. Oui, monsieur, je suis tout ce qu'il y a de plus certain. Comment sais-tu, Abraham, que tu vas l'avoir? Dieu l'a dit, je vais l'avoir de toute façon. Bon, le deuxième mois, le troisième mois, la première année. Y a-t-il quelque chose de différent, chérie? Non. Encore rien? Non, non. Eh bien, gloire à Dieu, on l'aura quand même. Et Abraham, j'ai entendu dire que tu avais dit que vous alliez avoir un bébé. Oh, oh, oh. C'est là un son incertain, voyez. Mais Abraham avait entendu un autre son qui avait anéanti tous les autres. Gloire à Dieu, peu importe le temps qu'il prendra, je vais l'avoir de toute façon. Comment le sais-tu, Abraham? Dieu l'a dit. Est-ce que Dieu est descendu te le dire? Oui. Comment sais-tu? Laisse-moi l'entendre. C'est à moi qu'il a parlé, pas à toi. Continue donc, continue, vieil incroyant. Tu ne crois pas de toute façon. Je crois en lui, tu vois, aussi continue, c'est ça, on aura l'enfant de toute façon. 25 ans passèrent, mais avant que n'arrive ce temps, ils riaient et se moquaient. Dieu a dit, tu sais quoi, je vais t'éloigner d'eux, fais tes bagages, tiens-toi prêt, tu auras à te séparer de ce groupe d'incroyants. Là-bas, je te donnerai une petite église, des gens qui te croiront. Éloigne-toi de ces vieilles dénominations froides et formalistes. sors d'ici, marche avec moi seul. Dieu ne l'a jamais béni tant et aussi longtemps qu'il ne l'a pas fait, ne s'est pas séparé de toute incrédulité. Et il ne vous bénira jamais avant que vous ne fassiez la même chose. Ôtez toutes ces vieilles superstitions de votre chemin. C'est peut-être que c'est ça et peut-être que c'est pas ça. Si vous êtes ici pour une guérison ce matin, venez avec une réelle foi. Dieu l'a promis et ça règle tout. Et c'est bien cela, Dieu l'a promis. Et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Dieu l'a dit, il l'a dit et ça règle la question. Vous n'avez plus à discuter, à penser. Très bien. Bon, après 25 ans, Abraham est à présent un vieil homme. Il a 100 ans et Sarah a 90 ans. Pensez à ça. Une petite grand-mère, un châle sur ses épaules, une capeline contre la poussière. Et le grand-père, vous savez, comme ceci et ce, comment vas-tu, chérie? Pas le moins différente. On l'aura. Gloire à Dieu. Un beau jour. Comme il leva les yeux pour regarder au loin, il vit trois hommes marcher en sa direction. Ils se sont arrêtés. Deux d'entre eux se sont dirigés vers Sodome, y prêcher. Il a dit, « Abraham, où est ta femme Sarah ? » Oh là là ! Maintenant, rappelez-vous, Jésus a dit que ça se verrait de nouveau. Vous savez, ce même ange, il a reconnu que c'était des anges, voyez. Il avait déjà entendu ce son. Et quand il a entendu cet homme parler, il y avait quelque chose de particulier qu'il a reconnu comme étant la même voix. Voyez, il a su que c'était la même. Il a dit, Sarah, après s'être glissé discrètement dans la tente, fais vite, va promptement nettoyer l'âtre, pétris la pâte, ou prends le morceau, place-le dans la saupoudreuse. Vous vous rappelez de ça, tamise un peu de farine. Combien d'entre vous du Kentucky se rappellent de cela? Eh bien, vous devriez. J'ai vu ma mère prendre de cette pâte et la battre. Boum, 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 elle a travaillé, boum, 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 en secouant la farine dans un tamis pour nous faire des gâteaux, et puis bouillir une viande maigre dans un moule à pain et y verser de l'huile, et des pois noirs et des navets verts. C'est très bon à manger. Et quand le cidre surissait et qu'il tournait au vinaigre, vous savez, on prenait la moisissure qui était dessus et on mettait un peu de vinaigre dessus. C'est bon. Je vois Sarah faire cuire ses gâteaux, et Abraham est sorti, et est allé voir où il pourrait trouver un veau gras et le tuer, le rapporter et le préparer. Il est sorti, a dit, il y a quelque chose de particulier dans cet homme. J'ai déjà entendu cette voix-là. Je vois que ses vêtements sont pleins de poussière. Il est là, se frotte le visage et regarde tout autour. Mais je vous dis, je connais cette voix, parce qu'elle n'est pas un son incertain, parce que je l'ai entendue il y a 25 ans. Et chérie, nous avons attendu tout ce temps. Il y a quelque chose de particulier concernant cet homme. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose à son sujet que je crois. Très bien. Quand il est sorti, il a d'abord envoyé les mouches, vous savez, et ils se sont assis pour manger. Donc, après un bout de temps, deux d'entre eux ont commencé à regarder vers Sodome et sont partis en sa direction. Un prédicateur moderne est allé leur prêcher l'évangile. Donc, Abraham était assis là avec cet homme, et son dos était tourné à la tente. Il a dit, « Abraham, où est ta femme Sarah ?» De lui répondre, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Il a repris, « Quand son terme sera là, je reviendrai vers toi selon la promesse que je t'ai faite. » Il a su par cela que ce son était certain. Qu'arriva-t-il ? Immédiatement après le départ de l'ange, Sarah est devenue une jeune, belle femme comme autrefois, montrant ce qu'il va faire à chaque semence d'Abraham. Cette vieille grand-mère est devenue une jeune femme, et Abraham, son dos s'est redressé, sa barbe blanche a disparu, il était redevenu un jeune homme. Et ils ont entrepris un petit voyage de près de 500 kilomètres à Guérar, et une fois là-bas, Abimélec, roi des Philistins, se voulait une épouse. Il voyait bien les jolies femmes autour de lui, elles étaient belles, c'est un fait. Il avait vu toutes ces femmes et avait dit, c'est bien pour dire, mais je ne peux pas m'en choisir une. Un jour, il a vu Sarah de loin, une centenaire, une petite mémé, et il a dit, « C'est celle que j'attendais. La voilà, c'est elle. » Donc il l'a prise et allait la marier. Et Dieu lui est apparu en songe et a dit, « Tu l'as prise? C'est la femme de mon prophète. Tu n'es qu'un homme mort. » Il a répliqué, « Seigneur, tu connais mon intégrité. » Il n'y avait pas d'incertitude en cela. tu la lui rends ou je n'entendrai aucune prière qui me vienne de toi. Je n'écouterai rien de toi parce qu'il est un prophète et tu lui rends sa femme parce qu'il a besoin d'un peu d'argent. C'est pourquoi tout ceci est arrivé. Donc il a besoin d'argent, sors et rends-lui sa femme, sans quoi tu es un homme mort. Il n'y avait rien d'incertain en cela, parce que Dieu avait rendu stériles toutes les femmes. C'est exact. Il est sorti et a dit, Abraham, pourquoi tu fais cela? Il a répondu, eh bien quoi, elle est ma sœur, comme je te l'ai dit, mais elle est devenue ma femme. Maintenant, qu'était-il? Ensuite, quand ce petit bébé est né après toutes ces années, quand ils sont revenus, il arriva que Dieu dise, prends-le sur la montagne, tranche-lui la gorge. Oh là là! Genèse 22 dit qu'il l'a emmené sur la montagne, a pris le petit Isaac. Oh, il n'était plus un bébé, il avait près de 14 ans. Il a rejeté en arrière ses cheveux bouclés comme cela, a pris le couteau d'une main tremblante. Il n'y a pas de doute qu'il devait ravaler la gorge serrée, vous savez, mon seul fils, que j'ai attendu tant d'années, je n'ai jamais eu de garçon. Regarde-le, regarde-le, mon seul fils, pauvre petit. Mais, ô Dieu, tu m'as demandé de le faire, je sais me confier en ta parole, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais Seigneur, tu me l'as donné comme provenant des morts. Si vous voulez l'écrire, c'est en Hébreux 11, 17 à 19. Allons voir, nous allons terminer dans une minute. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a dit, « Seigneur, autrefois quand j'étais stérile, je n'avais rien, j'étais pécheur, et tu as fait de moi quelqu'un, tu m'as fait une promesse, et voici tu m'as donné ce garçon, et je l'ai attendu 25 ans. » Maintenant, 14 ans plus tard, eh bien, il est devenu un jeune homme, la fierté d'une mère. Je l'ai fait sortir doucement de la maison. Sa mère ne comprendrait pas. Mais je te comprends, Seigneur. Je sais que ta voix est véritable. Là, tu me demandes de l'immoler, de le tuer. Et tu m'as dit que par moi, moi, je serai le père d'une multitude de nations. Par lui, tu prendrais ce garçon et par lui, et quand tu... On m'a fait la promesse et que tu as divisé ces animaux en pièces ce jour-là et cette petite lumière blanche est passée entre les pièces. Tu m'as fait une promesse. Par cet enfant-ci viendrait ton propre fils. Amen. Tu susciterais ton propre fils et qu'à travers la semence de mon fils, tu susciterais ton fils et il sauverait toutes les nations. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Seigneur. Ça ne me regarde pas, mais je connais la certitude de cela. Je connais la certitude de ta promesse et j'en suis persuadé et je l'ai reçue comme provenant des morts et je suis pleinement persuadé que tu es capable de le ressusciter des morts et par la foi tu pourrais le rappeler à nouveau. Je prendrai ta parole, Seigneur. Il a tiré son couteau, a dit au revoir Isaac après l'avoir embrassé. Dieu a dit attends Abraham, attends une minute, je sais que tu me crois et je sais que tu m'aimes. Retire ta main. À cet instant, il a entendu du bruit derrière lui. Il s'est retourné pour voir. Et un bélier se trouvait là, pris dans un buisson. D'où venait ce bélier? D'où venait-il? Il était à 160 kilomètres de toute civilisation dans le désert. Car là, il y a des lions, des loups, des chacals et toutes les bêtes du même genre qui tuent les moutons. Et de plus, il se trouvait au sommet de la montagne. Il n'y a pas d'eau ou quoi que ce soit qui permette à un mouton d'y vivre. Et une minute auparavant, il n'était même pas là. Et en se retournant, c'était la minute qui a suivi, il était là. Jéhovah Jireh, Dieu peut. Abraham a levé les yeux et a dit, tu es Jéhovah Jireh. Que signifie Jéhovah Jireh? Tu peux pourvoir à tout ce que tu dis. Si tu dis que c'est ainsi, c'est ainsi. Tu es capable de le faire. Et qu'a-t-il fait? Il avait dû entendre le même son que Noé avait entendu. Comment va-t-il pouvoir tirer de l'eau du ciel? Je ne sais pas, mais il est Jéhovah Jireh. Il peut pourvoir de l'eau. Arrêt de la bande, note de l'éditeur. A dit, tu vas faire quoi avec cette Bible? Tu ne sais pas lire. Il a répondu, j'y crois d'une couverture à l'autre. Et puis, je crois la couverture aussi, parce que c'est écrit Sainte Bible. Il a dit, Je présume que tu crois aux histoires qu'on y raconte. Il a répondu, oui, monsieur, je crois tout ce que Dieu a dit, et tout ce que Dieu me dit, je le crois. Il a dit, non, non, Sambo, écoute, tu ne peux pas agir comme cela. Vois, si Dieu te demandait de passer au travers du mur de pierre qui est là, le ferais-tu? Il a dit, oui, monsieur, je foncerai tout droit dans le mur. Il a dit, comment vas-tu passer au travers sans ouverture dedans? Il a dit, si Dieu me dit de passer au travers, il aura fait un trou quand j'y arriverai. C'est à peu près cela, tout à fait. Dieu tiendra sa parole, il n'y a pas d'incertitude en cela. Quand la trompette de Dieu résonne à vos oreilles, la trompette de l'Évangile, c'est certain. Amen. Demeurez avec cela. Oh, c'est certain. Et tous ces gens, si nous dépassons l'heure, un commentaire de plus, ou plutôt deux écritures que je pense avoir notées. Pourquoi ces gens ont-ils tous agi de la sorte? C'est parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Très rapidement maintenant, pour finir dans 3 ou 4 minutes. Jésus, quand il était ici-bas, dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre à nouveau. Il n'y avait rien d'incertain en cela. J'ai, pas j'aurai, mais j'ai maintenant, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Très bien. Marthe, après avoir perdu son frère Lazare, lui avait entendu dire, j'irai le réveiller. Il a dit, où l'avez-vous enseveli? Elle était allée lui dire, Jésus vient guérir mon frère, il est malade. Jésus n'a jamais prêté attention à cela. Il est parti, elle est revenue vers lui, elle et Marie, et il n'a jamais prêté attention à leurs supplications. Ensuite, un peu plus tard, Lazare est mort. On l'a mis dans une tombe. Déjà, il sentait depuis 4 jours qu'il était là. Son nez s'était affaissé, les vers bougeaient sur lui, et tout enveloppé dans ses langes. On avait placé une pierre sur sa tombe. En Orient, on creuse simplement un trou, puis on place une pierre par-dessus ce trou. C'était là la tombe. Elles ont donc dit, « Viens, Jésus !» Donc Marthe s'est couvert les épaules de son châle, puis elle est sortie. Cette belle jeune fille a couru vers lui et a dit, « Seigneur, regardez cette approche !» Elle avait entendu un son un jour, et il était certain. Elle savait qu'il y avait quelque chose de certain le concernant. Que serait-il arrivé si elle avait dit, « On a quitté notre dénomination parce que tu as prêché contre elle, et on a tout fait ça parce que tu as fait ceci et cela, et on a la foi en toi, on parle de nous en ville, tout le monde dit, où est passé votre exalté de pasteur maintenant? Voyez, vous en avez besoin, et il est où? Il s'est sauvé, voyez, il est où? Ils sont où vos guérisseurs divins? Rappelez-vous que cela t'a été dit, frère Wright, là-bas, par les prédicateurs de l'Église de Christ. Oui, monsieur, où sont-ils? Où donc? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça maintenant, vous voyez? Donc, après un bout de temps, il semble qu'elle aurait dû avoir le droit de lui faire des reproches et de lui dire, « Pourquoi n'es-tu pas venu quand je t'ai appelé ?» Mais voyez, ce n'est pas la manière d'approcher Dieu. Ne posez pas de questions. Sachez que le son est certain. Marchez droit devant, dites, « Oui, Seigneur !»« Seigneur, s'il m'impose les mains, comment vais-je savoir que je vais me rétablir ?» Cela ne vous regarde pas, voyez? La seule chose que vous faites, c'est de connaître ce son certain que Dieu l'a dit et continuez votre chemin. Dieu l'a dit, voyez. Oui, monsieur, c'est la parole de Dieu. Ensuite, la première chose que l'on remarque, eh bien, la petite Marthe a couru vers lui et a dit, « Seigneur, oh, j'aime cela. » Voyez, elle l'a gratifié de ce qu'il était. Il était son Seigneur. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, voyez. Elle ajouta, « Mais même là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Rien d'incertain en cela, non? Voyez, voyez, c'est quand deux positifs se rencontrent, voyez, c'est quand deux omnipotents se rencontrent, voyez, l'omnipotence qu'elle avait, elle avait une foi parfaite, omnipotente en Christ, et Christ était omnipotent, voyez, elle avait une foi parfaite et sans limite en Christ, qu'il était le Seigneur, et savait que ce qu'il demanderait à Dieu, Dieu le lui accorderait. En d'autres mots, elle a dit, prononce simplement la parole, c'est tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. C'est de l'omnipotence, de la toute-puissance, parce que s'il l'a simplement prononcé, voyez, et il était tout-puissant. C'est lorsque deux puissances omnipotentes se rencontrent, cela crée un contact. Quand une ligne ici possède un courant de 150 volts, et que cette autre possède 150 volts, quand elles sont reliées, vous avez du 150 volts dans les deux sens, voyez? Et quand vous avez la puissance suprême, quand Jésus a dit « Imposez les mains aux malades et ils seront guéris », et que vous avez la foi suprême, que c'est la vérité, vous avez alors besoin d'un Dieu suprême qui a fait une promesse suprême et un résultat suprême viendra. Amen. C'est tout, voyez? Maintenant, surveillez-la. Elle est venue lui dire, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il a dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle a dit, « Il est vrai, Seigneur, qu'il ressuscitera à la fin dans les derniers jours. » Pourquoi? Elle avait entendu cette parole. Elle savait que c'était un son certain. « Il est vrai, Seigneur, qu'il ressuscitera à la fin dans les derniers jours. » C'était un brave homme. Il ressuscitera la résurrection générale dans les derniers jours. Jésus a dit, « Je suis, rien d'incertain en cela, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, vivra à nouveau. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Rien d'incertain en cela. Crois-tu ceci ?» Elle a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es exactement ce que tu as dit être. Tu es le Fils de Dieu qui vient dans le monde pour nous sauver. Et je crois que tout ce que tu fais ou dis est simplement parfait. Il n'y a pas un gramme d'incertitude à ton sujet. Oh, où l'avez-vous déposé? Je vais aller le réveiller. » Il n'a pas dit, « Je vais aller voir si je peux. Je vais aller essayer. Je vais aller voir ce que je peux faire. » Non, rien d'incertain. Je vais aller le réveiller. Pourquoi? Le Père lui avait dit, et il avait la promesse de Dieu, laquelle était véridique. Il avait la promesse de Dieu parce qu'il a dit en Jean 5, 19, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce que le Père lui montre. Il avait déjà eu la vision de ce que Dieu allait faire. C'est pourquoi il était positif. Je ne vais pas aller essayer, je vais aller le réveiller. Amen. 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 Oh, je désirerais prendre cela comme on prend un tire-bouchon et le visser en chacun. Voyez pas, je vais aller essayer, je vais aller voir si je peux, mais je peux, je vais aller le réveiller. Je n'irai pas essayer, je vais aller le faire, je vais aller le réveiller, et il l'a fait. Oh là là, rien d'incertain, non, non, je ne vais pas essayer, j'en ai la promesse. Et puis quand il est parti, il ne nous a pas laissés en nous disant, « Eh bien maintenant vous irez par tout le monde et ferez de grandes organisations, et oh, il en viendra plusieurs centaines, mais tout ira bien comme ça pour eux. » Cela aurait été incertain. C'est ce que l'homme a fait. Mais voici ce qu'il a dit avant de partir pour être certain que nous ne serions pas séduits. Il a dit, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » Ce sont là les incroyants, ceux qui sont arrêtés par l'incrédulité. Ils ne me verront plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Dans Jean 14, 12, il dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes ou davantage. » Le mot qui est là, regardez dans le grec, il est dit, « Vous en ferez plus. » Pourquoi? Dieu était dans un seul homme, et maintenant Dieu est dans son Église entière. Vous voyez, Dieu était auparavant dans un seul homme, et maintenant il est dans tous les hommes qui croient en lui. Davantage que celle-ci ferez-vous, car je m'en vais au Père. Je retourne à la lumière que j'étais, laquelle a guidé les enfants d'Israël dans le désert. C'est à cela que je retourne, et encore un peu de temps, et je reviendrai à nouveau. Voyez, Jean 14, 12, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et ici il dit, et davantage. En Marc 16, alors qu'il s'élevait dans le ciel, il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront, peut-être ? Non, suivront, ils sont certains. Eh bien, vous savez, nous croyons ça, mais bien sûr, nous vivons en un autre jour, disent les dénominations. C'est incertain. » Mais Jésus a dit, « Ils vont assurément suivre ceux qui croient. » Que feront-ils? Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Oh, frère! Non pas, ils vont peut-être faire ceci, ils pourraient changer ça et en faire une dénomination. Non, non! Oh, non, non, non! Ces signes vont à coup sûr les suivre. Il est toujours le même Dieu, il n'est pas mort. Comment le code chrétien peut-il dire qu'il est ressuscité des morts et puis nier qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement? Et Matthieu 17, maintenant prenez ça en note, Matthieu 17, 2, concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fut transformé. Je crois que c'est, laissez-moi voir si je peux le retrouver, Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait par transfiguré devant eux? Il changea son apparence. Oh, combien de temps avons-nous? Frère Neuville dit, toute la journée. Et la congrégation dit, Amen, note de l'éditeur. Supportez-moi encore un peu de temps, je dois juste faire passer ceci. Quelque chose vient de me saisir si fortement que je dois à tout prix le dire. Pardonnez-moi, le dîner, les fèves ne vont pas brûler. Oubliez tout ça, d'accord? Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hébreux 13, 12 et 13 dit, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, regardez, si nous croyons qu'il est ressuscité, alors s'il n'est pas mort, il n'est pas dans une tombe, il est vivant. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il a été transfiguré? Le grec dit, il a changé son vêtement. Oh, regardez, regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tantôt. Remarquez, qu'est-il arrivé en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le 16e chapitre, il leur a dit, il en est quelques-uns qui ne mourront point, qu'il n'ait vu venir le royaume de Dieu dans sa puissance. Ce qu'il ferait, en d'autres mots, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Voyez, c'est dans le 16e chapitre. Il est maintenant sur la montagne et son apparence a été changée. En d'autres mots, il a été révélé sous une autre facette. Me suivez-vous? Amen. Qu'avons-nous dit qu'était une révélation l'autre soir, selon l'Apocalypse, la signification de l'Apocalypse? Un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture et a dit, voici. Que refaisait-il ici? Il se révélait sous une autre apparence. Dans quelle forme se présentait-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé, son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée, et il vient sur les nuées avec gloire, couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Tous ses anges avec lui. Alléluia. Oh là là, c'est comme ça qu'il revient, revenant sur une nuée avec gloire. Maintenant remarquez, quand ils le virent sur les nuées, avant cela Moïse et Élie lui sont apparus. Surveillez cela. Que représentait Moïse? Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Parce que Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient quand il reviendra. Et Élie représentait ceux qui sont ravis, qui n'ont pas à mourir. Voyez? Voilà. Et Pierre, Jacques et Jean représentaient ce reste d'Israël qui reste et qui disent, voici notre Dieu en qui nous avons cru. Ce sont vos 144 000. Voyez? Pierre, Jacques et Jean, trois des témoins de sa venue. Qu'était la première chose? La résurrection. Moïse et, conjonction, Élie lui sont apparus. Voyez, la résurrection des morts et ceux qui n'ont pas à mourir ont été changés et se sont tenus là dans sa présence. Oh là là. Et voici qu'ils se tenaient là glorifiés. Et là étaient Pierre, Jacques et Jean, le reste des Juifs qui regardaient, qui disaient, c'est lui, c'est lui. C'est l'ordre de la venue du Seigneur. Le voyez-vous? C'est là la résurrection. Ils étaient là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Remarquez la seule chose qu'il a faite. Il a enlevé son masque d'humanité et a pris l'état glorifié. Voyez, il a changé son apparence. Non pas trois personnes, comme aujourd'hui les dénominations essayent de nous le dire. Oh frère, non pas trois personnes, non pas trois, mais trois changements de la même personne. Oh bonté divine, il est déjà apparu comme un père. Il a ôté son masque, il était un fils. Maintenant il a enlevé son masque de chair. Et il est le Saint-Esprit, pas trois dieux, mais trois changements du même Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Trois changements de la même personne, voyez. Maintenant, quand il était sur la terre, il était la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. N'est-ce pas vrai? Amen. Ensuite, il a été fait chair dans le Fils de Dieu afin de goûter la mort pour la race humaine entière. On a fait l'expiation. Croyez-vous cela? Amen. Qu'en est-il maintenant aujourd'hui? Le même Jésus, le même quoi? Hier comme Père, le même comme Fils, le même ici, dans la forme du Saint-Esprit, la même lumière. Paul, sur le chemin de Damas, a été frappé par une lumière et il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit, « Je suis Jésus. » Qu'est-ce? Il a enlevé trois fois son masque. Il a enlevé son masque d'une colonne de feu pour devenir quoi? Un homme pour enlever le péché. Ensuite, il a enlevé son masque en tant qu'homme et est revenu comme esprit, appelé le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme pour revenir être sur vous et en vous et faire les mêmes œuvres. Le voyez-vous, Église? Amen. Il n'y a rien d'incertain en cela. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de la consommation, la fin du monde, la fin des temps, la fin de toutes choses. Je serai même avec vous, faisant les mêmes œuvres. Il n'y a là aucune incertitude en cela, mais vous avez entendu dire de quelques-uns, « Eh bien, vous devez être un presbytérien, vous devez être un méthodiste, c'est nous les baptistes qui l'avons, c'est nous les pentecôtistes qui l'avons. » C'est tout faux, ce sont des mensonges, c'est de l'incertitude. Comment les pentecôtistes peuvent-ils l'avoir, la dénomination pentecôtiste, quand parmi eux il y a environ 30 organisations différentes? Laquelle serait la vraie? Comment les méthodistes l'ont-ils quand on a les primitifs, les méthodistes libres et beaucoup d'autres? Et 60 et quelques organisations différentes de baptistes, je crois, et autant d'organisations différentes de catholiques et ainsi de suite, laquelle serait la vraie? Ce sont des sons incertains, mais quand vous l'entendez, je suis le même, hier et aujourd'hui et éternellement, c'est là un son certain. Alors, qui saura comment se préparer si la trompette rend un son confus? Qu'est-ce à dire? Comment peuvent-elles le prétendre quand il y a 900 organisations différentes? Non, elles ne le peuvent pas. Quand il a dit en Actes 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, il n'y a pas d'incertitude en cela. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non pas vous recevrez peut-être, vous devriez peut-être, mais vous recevrez. Quand? Quand vous vous êtes repenti. Bon, si vous entrez là sans vous repentir, vous ne le recevrez pas. Mais quand vous vous repentez véritablement et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous allez le recevoir. Il n'y a rien d'incertain. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Quand il a dit, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Il n'y a rien d'incertain en cela. Ces signes sont certains. Je serai avec vous. Maintenant, vous dites, eh bien, notre Église ne croit pas en ce genre de choses. C'est effectivement un son confus. La Bible dit cela. Il a lui-même dit, je serai avec vous et les œuvres que j'ai déjà faites, je les ferai toujours en vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ceux qui croient en moi, quand ils imposeront les mains sur eux, s'ils sont malades, ils seront guéris. Oui, pas. Peut-être qu'ils le seront. Jones l'a été, mais pas Johnson. Ça n'a rien à voir. Si Johnson avait cru comme Jones, il aurait aussi été guéri. N'est-ce pas vrai? Amen. Il n'y a rien d'incertain. Rien d'incertain. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il n'y a rien d'incertain. Eh bien, si moi, il ne me recevait pas. Oh, vous, pauvres ignares. Écoutez, laissez-moi vous dire en tant que son serviteur qu'il n'y a personne qui peut venir à lui sans qu'il ne le reçoive. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il n'y a rien d'incertain. J'en pardonnerai une partie, vous avez peut-être fait ceci et cela, et je vous en tiendrai rancœur. Non, ils deviendront blancs comme la neige. Ils ne me pardonneraient pas ce que j'ai fait à mon mari, ce que j'ai fait à ma femme, ce que j'ai fait à ma sœur, ce que j'ai fait à mon frère. Ce que vous avez fait importe peu, il n'y a rien d'incertain, il vous pardonnera tout. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la laine. Rien d'incertain. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Écoutez ça, vous trinitaires, extrémistes, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette prescription sera la même pour toutes les générations. Pas « il se pourrait », ça va changer après un bout de temps, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous, pauvres enseignants ignorants, Dieu ne peut changer, il est infini. La prescription fonctionne à tout coup si vous l'appliquez correctement. Oui, monsieur, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est quoi cette prescription, ce baptême, ce genre de baptême, ce Saint-Esprit, cette même puissance? Pas une simple poignée de main en disant « je vais tourner une nouvelle page et faire mieux ». Non, monsieur, vous recevrez le don du Saint-Esprit et la puissance de Dieu viendra sur vous, changera vos voix, vous parlerez en langue, imposerez les mains malades, chasserez les démons, ferez ce qu'ils ont fait. Pour combien de temps et pour combien de personnes? Jusqu'à la fin des disciples. Vous êtes un faux prophète si vous dites ça. Vous êtes un faux enseignant si vous dites ça. Car Jésus-Christ nous dit, la Bible est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ici, les apôtres disent que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi, dites-le avec moi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour combien? Pour tout âge, toute génération, toute couleur, tout credo, tout ce que vous voudrez, en aussi grand nombre que Dieu appellera. Et si Dieu vous appelle, il ordonne de vous faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, Christ lui-même vit en vous, et il n'y a pas de soin certain, d'incertitude face à cela. Vous avez la Bible, oh, restez avec elle, vivez avec elle, mourrez avec elle, vous ressusciterez avec elle. Gloire! C'est la parole de Dieu. Oh là, oh là là! Comme Rebecca qui a donné à boire au chameau, le chameau même qui l'a abreuvé, celui qui l'a porté à la rencontre de son époux, le Dieu même que nous prêchons, la parole même qui est Dieu, le Dieu même qui est dans la parole, nous ressuscitera un jour par le baptême du Saint-Esprit. Et nos critiques seront tués par la même puissance qui vous a élevé dans la gloire. Voyez, oh là là, levez-vous et chevauchez-la, vous qui êtes malades, ne doutez pas de Dieu. Est-ce que les Léo et les autres ont distribué les cartes de prière? Y en a-t-il de distribués? Billy n'est pas venu ce matin, il a pris un rhume hier. Très bien, on n'en aura pas besoin. Non, écoutez, ce que j'ai prêché, croyez-vous que c'est la vérité? Amen. Le croyez-vous de tout votre cœur? Amen. Est-ce un son certain pour vous? Oui, amen. Comment ceci s'entend-il? La première commission que Jésus donne à l'Église en Matthieu 10, je ne le lis pas, je le cite, il a appelé les douze et leur a donné le pouvoir contre les esprits impurs, de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons et de purifier les lépreux, n'est-ce pas? Amen. En amenant les gens à y croire et en imposant ensuite sur eux les mains, était-ce là sa première commission? Quand il a envoyé les 70, quelle a été la dernière commission qu'il a donnée? Marc 16, les dernières paroles qui sont sorties de sa bouche quand il a commissionné son Église, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, rappelez-vous, il pourrait être condamné, il pourrait avoir une chance, il n'aurait aucune chance venant de ce monde. Il n'y a pas de son confus en cela. S'il ne croit pas, il sera condamné. Bon, quels sont les signes qui vont les suivre? Ces signes, sur quelques-uns ils vont suivre? Ou c'est possible qu'ils suivent? Ils vont peut-être suivre? Non! Ces signes les suivront. Ils croiront en la guérison. Ils croiront au fait de chasser les démons. Ils croiront au parler en langue. Ou ils croiront à toutes les œuvres surnaturelles de Dieu. Le Jésus ressuscité œuvrant avec eux. N'est-ce pas là la vérité? Amen. N'est-ce pas là la dernière parole de Dieu? Amen. Alors maudit est celui qui essaie d'ajouter à cela ou d'en retrancher. C'est comme ça. C'est comme ça. L'église pentecôtiste n'était-elle pas une église bruyante quand le Saint-Esprit a d'abord tombé au tout début? la Vierge Marie, comme si elle avait été ivre, titubait sous la puissance de Dieu, et tous les autres pareillement. Et les gens ont dit, ils sont pleins de vin doux. C'est comme ça qu'a été ordonnée l'Église. C'est ainsi que chaque Église a été ordonnée. Chaque fois que Dieu aura une Église, ce sera le même genre d'Église. Car ce n'est pas un son incertain. Bonbon, notre évêque dit, ce que l'évêque dit importe peu, c'est ce que dit la parole qui importe. L'évêque a donné un son confus. Si le son qu'il donne rend le même son que la parole, il est correct. Et donc, si l'Église n'agit pas comme elle l'a fait autrefois, le son est faux. Si vous dites l'avoir reçu et que vous n'agissez pas comme tel, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est exactement ce que la parole dit. Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Il leur a imposé les mains. Pierre est venu leur imposer les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. On fait la même chose qu'ils ont fait au commencement. À la maison de Corneille, où se trouvaient tous les gentils, les Grecs, et ainsi de suite, il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit comme au commencement. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Je suis un missionnaire, vous savez. Et bon, je crois qu'un missionnaire est un homme qui va et vient. C'est un missionnaire. Si vous y allez pour rester, ils appellent ça un missionnaire, mais il est un citoyen, ayant simplement changé de résidence, voyez. Ce n'est pas un missionnaire. Paul était un missionnaire. Il ne restait pas, il allait d'un endroit à l'autre. Un missionnaire ne change pas de résidence, il va d'un endroit à l'autre. Toujours, ils vont dans les champs de mission. Je vous dirai dans les régions les plus reculées d'Afrique pour rejoindre les hommes de la brousse. Et il a fallu du temps avant de savoir qu'ils étaient des humains. Le gouvernement britannique, quand ils ont envahi l'Afrique du Sud, au beau milieu de la jungle, vous verrez ces hommes qui se secouent comme une bande de singes. Et regardez autour, il n'y a rien. Vous regardez par hasard et vous verrez une tête noire surgir hors du sable. Et regardez tout autour, voyez, il s'est enterré dans le sable, s'est sauvé et s'est enfoui dans le sable, très rapidement. Longtemps ils ont cru qu'ils étaient des animaux, mais savez-vous comment ils ont découvert qu'ils étaient des humains? Ils avaient des chiens, et un chien ne vivra avec rien d'autre qu'un humain, voyez, et ils ont découvert qu'ils étaient des humains. Et tous ceux-là, les Basutos ou les Shangas, les Xhosas, chacune de ces tribus, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils sont toujours en train de balbutier, bla bla blou. Vous savez, ils parlent comme ça. Et ils sont tout nus, les hommes, les femmes. Et je vais vous dire quoi faire. Dès que le Saint-Esprit descendra sur eux, ils feront la même chose que vous faites ici quand le Saint-Esprit descend sur vous. Il n'y a pas de son incertain, cela. De sa vie, il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose que de parler en langue, et voici qu'il est en train de vous parler en langue. Mais voici que l'interprète et ce type se parlent et disent, « Bla, vous voulez être sauvé ?»« Bla, oui. » »« Quelqu'un ici veut-il être ?»« Ou bla, bla, blou. » »« Levez vos mains et recevez-le. » »« Ou bla, oh là là. » Et le voici qui se met à parler en langue. Il n'était pas au courant de cela. On n'avait pas la moindre idée. Il n'y a pas d'incertitude en cela. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ira directement rejoindre la tribu et ira prier pour les malades. Vous n'avez pas à lui dire. Et les femmes américaines, et les membres d'église, ce n'est pas tant à vous ici que je parle. C'est enregistré, vous savez. Vous, membres d'église qui portez des shorts et qui vous comportez comme vous le faites, vous en enlevez un petit peu plus chaque année. Ensuite, vous portez des shorts, ensuite de plus petits shorts. Et ensuite de plus petits shorts encore, et ainsi de suite. Vous, pauvres membres d'église illusionnés, vous êtes pires qu'ils le sont en Afrique. Quand ces femmes se sont présentées ce jour-là, ce jour où 30 000 ont reçu Christ comme leur sauveur personnel, d'un seul coup, et vous chantez dans les chorales, et vous portez des shorts dans votre cour pour tondre votre gazon et au centre-ville, vous êtes pires qu'ils le sont. Ils se lèveront au jour du jugement. Et vous aurez honte de vous. J'ai vu des femmes nues, n'ayant rien d'autre qu'un petit morceau devant elles comme cela, et la hauteur de leur buste, rien du tout. Une simple petite bande de 10 à 15 centimètres autour de leur taille, suspendue devant elles. Et les hommes aussi étaient complètement nus, ne reconnaissant pas leur droite de leur gauche. Et dès que la puissance du Saint-Esprit est venue, ces femmes se sont croisées les bras sur leurs seins, n'ayant rien pour se couvrir, et se sont croisées les bras, honteuses, et se sont éloignées. Le lendemain, elles étaient habillées. Alléluia! Oui, il n'y a pas d'incertitude en cela. Le Saint-Esprit vous fait vous habiller. Oui, vous agirez avec décence. Rien de confus en cela. Voulez-vous de lui? N'aimeriez-vous pas servir quelqu'un comme lui, le Seigneur Jésus-Christ? Éloignez-vous de ces sons incertains. Oh, on vous aime bien, oui, toute maquillée et tout. Vous pensez plaire à tout le monde. Mais ma chérie, vous êtes en train de mourir. Vous pensez être en train de vivre et vous êtes en train de mourir. La Bible a dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. La Bible dit ça. Ce n'est pas là un son confus. Elle dit, elle est morte. C'est exact. Il n'y a pas de confusion en cela. C'est de l'incertitude, frère. Dieu est un Dieu saint. Et quand un homme naît de l'Esprit Saint, il est un candidat. Non seulement ça, mais il est aussi un roi, il est un prince, il vient d'une autre nation. Son royaume est d'en haut, il est rempli de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. La femme qui fait cela porte des vêtements. L'homme vit décemment et est fidèle à sa femme. La femme vit décemment et est fidèle à son mari. Il ne désire rien du monde. Leurs affections sont placées sur les choses d'en haut. Ils ont fini avec les choses du monde. Ils sont de nouvelles créatures en Christ. Et ils sont saints, vivent ainsi. Ce n'est pas eux qui sont saints, mais le Saint-Esprit qui les gouverne. Ils n'ont plus leur propre pensée. C'est le Saint-Esprit qui pense en eux. C'est pourquoi ils agissent comme des fous aux yeux du monde, parce qu'ils sont mus par un esprit d'un autre royaume. Oh, je sais que c'est ainsi, mon ami. J'étais perdu auparavant, mais maintenant je suis sauvé. J'étais aveugle à ces choses, mais maintenant je vois. La grâce m'a appris à craindre, et c'est elle qui m'a libéré de mes peurs. Elle m'est apparue si précieuse le jour où j'ai cru quand je suis venu à Christ. Pour terminer, en ce qui concerne à la fois le salut et la guérison, laissez-moi pendant une minute vous apporter ces paroles. Paul Rader était un de mes amis. Je l'ai connu sur une courte durée. Je n'étais qu'un garçon à l'époque, assis à ses pieds. C'était un grand ministre qui est mort ici il n'y a pas longtemps en Californie. Il a été atteint d'un cancer et allait mourir là-bas, en Californie. Le tabernacle que possède maintenant O.L. Yeagers, c'était lui qui l'avait auparavant. J'oublie comment on l'appelait en ce temps-là, mais c'est maintenant The World Church. Son tabernacle se trouvait sur la rue Eldorado, en face du temple Macpherson, juste en face du chemin du parc. Maintenant, quand Paul Rader en était le pasteur, avant sa mort, il a posé sa main sur l'épaule d'un frère que je connais très bien, un ami de Ern Baxter, et il a dit, si j'avais pris mon message de grâce et l'avais vendu au pétillant pentecôtiste plutôt que de perdre mon temps avec vous, Baptiste, je serais vivant aujourd'hui. Mais a-t-il dit, je suis inquiet à cause de vous, et je suis devenu si tendu au point que je suis maintenant mourant. Donc, alors qu'il était là dans la chambre, ils ont fermé les rideaux et se sont mis à chanter, plus près de toi, mon Dieu. Il avait un sens de l'humour, vous savez, et il a dit, qui est-ce qui se meurt? « Moi ou vous? Vous me paraissez bien plus mourant que je ne le suis. Ne faites pas ça. Chantez-moi plutôt quelque chose de plus joyeux. » Et le petit quatuor du Moody Bible Institute s'est mis à chanter « À la croix où mourut mon sauveur. » Il a dit « C'est beaucoup mieux. Gloire à Dieu. » Il a dit « Où est Luc ?» Et Luc et Paul étaient liés d'amitié, comme Billy mon fils et moi. Ils étaient frères et ils étaient toujours ensemble. Il a dit « Où est Luc ?» Et Luc ne voulait pas voir son frère mourir. Il était dans la pièce avoisinante, à l'hôpital. Il a dit, allez le chercher et dites-lui de venir. Et quand il s'est approché de Paul, Paul a pris sa main. Et Luc a tenté de tourner la tête. Il a dit, Luc, on a passé ensemble de dures épreuves. Pas vrai, mon frère? Il a répondu, oui, c'est vrai. À travers ces années, on a travaillé dur, mon frère. C'est exact. On a mené plusieurs durs combats. Il a repris, Luc, pense à ça. Dans 5 minutes, je serai dans la présence de Jésus-Christ, vêtu de sa justice. Il a serré les mains de son frère et il est mort. Il n'y a rien d'incertain en cela. Il en connaissait le chemin. Il savait. Il avait le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans sa vie. Il avait été bûcheron. Il avait abattu des arbres. Il était aussi un missionnaire, comme quand je vais outre-mer. Et lui et Luc et les autres, alors qu'ils étaient dans les îles, ont contracté la fièvre noire. Si quelqu'un s'y connaît, c'est mortel et c'est très virulent. Donc il a contracté la fièvre noire. Il se trouvait à être très éloigné dans la jungle, où il n'y a rien, lui et sa tendre petite femme. Il a dit à sa femme, « Chérie, c'est si sombre ici, je vais mourir. » Elle lui a dit, « Oh, Paul, Paul !» Elle est tombée sur sa face et s'est mise à implorer. Il a dit, « Chérie, continue, continue d'implorer Dieu et laisse-moi entendre ta voix. Que quelqu'un prie, moi je ne peux plus prier. Pendant que je meurs, je veux entendre ta prière. » Et elle a continué d'implorer Dieu. « Oh Dieu, ne le laisse pas mourir, il n'a pas encore fini son travail. » Elle a continué, « Oh Dieu, s'il te plaît, ne reprends pas Paul. » Elle était couchée en travers de lui comme cela. Ça s'est assombri de plus en plus, il a dit, « Chérie, c'est de plus en plus sombre. » Et finalement, il est mort. Il a dit, « Une fois mort, j'ai rêvé que j'étais de nouveau un jeune homme. » Il a dit, « Je me trouvais dans la forêt de l'Oregon, d'où il était originaire. » Il a dit, « J'avais abattu un arbre. » Le patron m'avait dit, « Monte sur la colline, Paul, et là tu abattras une quantité d'un certain arbre, et puis nous devons faire du bois de construction. » Il lui a répondu, « Très bien, patron. » Il a dit qu'il pouvait humer leur fraîcheur. Il se sentait si bien. Il a dit qu'il montait dans la forêt comme ça. Il empoignait sa hache, et il a dit qu'il pouvait sentir le fer de la hache pénétrer dans ce pain tendre, vous savez, le pain d'Oregon. Dans le sud, ils ont ce même arbre, il est très dur. Vous montez au nord, et plus il fait froid, plus le bois devient mou. Finalement, il a dit qu'il a pris sa hache, et on a coupé toutes les branches. Il a dit qu'il a planté sa hache dans l'arbre, et s'est dit, « Eh bien, je vais descendre la colline avec ça. » Il l'a empoigné et a dit qu'il n'avait pas pu le soulever. Il ne pouvait tout simplement pas le soulever. Il a dit qu'il avait essayé, réessayé. Il s'était souvenu que les muscles les plus forts d'un homme sont les muscles de son dos. Donc il a dit qu'il avait collé ses genoux ensemble pour ne pas se blesser, et il s'est penché et l'a empoigné. Il a gonflé tous les muscles de son corps en forçant pour le soulever, et il a dit qu'il a tiré et tiré sans pouvoir y parvenir. Il s'est dit, il faut que je descende ce rondin, il le faut, le patron me l'a exigé, et il faut que je l'amène. Et quoi, habituellement, je me demande bien où j'ai laissé toutes mes forces. J'aurais pu mettre cette chose-là sur mon épaule et descendre à pied. Mais je ne peux même pas le soulever. Et il a essayé, essayé, et essayé. Il a dit qu'il ne pouvait tout simplement pas. Il s'est épuisé. Il a dit qu'il s'est effondré au pied d'un arbre et s'est dit, « J'ai essayé autant comme autant. J'ai tout essayé. Il faut bien que je descende. Mais je ne sais pas comment. Je ne peux pas le lever. » Il était assis là et a dit qu'il s'était dit, « Je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et il a dit qu'il avait entendu sa voix, la voix de son patron dire, « Paul !» Et il a dit que c'était la voix la plus douce qu'il eût jamais entendue. Et il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, c'était mon patron. Mais c'était mon véritable patron. C'était Jésus. Et il a dit, pourquoi forces-tu là-dessus comme ça, Paul? Tu vois le ruisseau qui est là-bas? Il a dit, ce ruisseau coule jusqu'au camp. Pourquoi ne le pousses-tu pas dans l'eau? Chevauche-le et descends dessus. Donc il a dit qu'il avait roulé le rondin dans l'eau et était monté dessus. Et il a passé les cascades en jubilant et en criant, « Je le chevauche, je le chevauche !» Et il a dit, quand il est revenu, que sa femme était étendue sur lui dans la chambre et priait. D'un bond, il s'est retrouvé au milieu de la chambre en criant, « Je le chevauche, je le chevauche !» Frère, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Ne vous épuisez pas à cela. Je ne vais pas essayer de m'épuiser à cela. Cela vous épuisera d'aller de l'un à l'autre. Et je suis méthodiste, ou je suis baptiste, et je suis ceci. J'ai simplement reçu Jésus, j'ai pris sa promesse, par la grâce il est venu à moi, et je chevauche là-dessus. Je ne me soucie pas de ce qui arrive ou de ce qui se passe, ou combien de fois nous sommes taxés de fous, de fanatiques. Sur votre guérison ce matin, quand on a prié, on ne va pas avoir le temps maintenant pour une ligne de discernement. Il est presque 13h. Une heure de l'après-midi, nous allons prier pour les malades et prier pour tous ceux qui sont ici. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. N'est-ce pas? Amen. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Pas vrai? C'est ça que je chevauche. Êtes-vous prêts à chevaucher là-dessus? Courbons nos têtes un moment. Ô Dieu bien-aimé, ô en ces derniers jours, quand les heures s'assombrissent, l'Église a contourné la parole et ils ont zigzagué parmi les dénominations et ils savent que ce n'est pas correct, Seigneur. Puissent-ils cesser de déformer la parole? Il y a probablement des gens ici ce matin qui ont été d'une église à l'autre, un jour dans la méthodiste et l'autre dans la baptiste et puis dans la pentecôtiste, ensuite dans l'église de Dieu, ensuite dans la nazaréenne. Ô Dieu, puissent-ils arrêter d'agir ainsi? puisse-t-il venir chevaucher la promesse ce matin, Seigneur. Relaxez, prenez Dieu à sa promesse quand il a dit, si vous vous repentez, êtes baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ô Dieu, accorde-leur de pouvoir chevaucher sur cette promesse ce matin, de tomber directement dans l'océan de sa bonté, les jets de la vie éternelle, l'eau de l'Esprit. Accorde-leur, Seigneur, que le Saint-Esprit qui court en cascade, en fraîcheur, qui se trouve à leur porte cette fois, puisse-t-il sauter dans le ruisseau sur la promesse de Dieu et dire, « Seigneur, je chevauche ta promesse, me voici, je chevauche ta promesse. » Puissent les malades et les affligés, qui sont malades et ne savent plus quoi faire, les docteurs les ayant abandonnés, ils ont lutté d'un hôpital à l'autre, d'une porte à l'autre, d'une place à l'autre. Ils ne savent pas quoi faire, Seigneur. Mais le ruisseau de la vie coule maintenant à leur côté ce matin. Puissent-ils prendre cette écriture en Marc 16, s'ils imposent les mains aux malades, ils recouvriront la santé. Les croyants recouvriront la santé si on leur impose les mains. Seigneur, puissent-ils considérer cela ce matin? Monter là-dessus et dire, Seigneur, me voici. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais je la chevauche. Je vais descendre les ruisseaux, me réjouissant, laissant éclabousser de mes mains les eaux de la vie, les jetant sur mon âme et jusqu'à ma tête, et me baignant dans ta bonté, et me réjouissant comme j'avance, chevauchant ta promesse qui dit, « Ils seront guéris. » Accorde-le, Père. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je me demande s'il y aurait dans ce bâtiment ce matin, combien ici ce matin ne connaissent pas Christ comme leur Sauveur, et vous croyez que le ruisseau de la vie est venu jusqu'à vous? Vous avez eu toutes sortes de sons confus, vous avez bâti votre maison sur des sables mouvants, vous réalisez qu'un jour vous allez mourir, vous allez sortir de ce monde, et vous voulez vraiment entendre un son certain, et vous croyez l'avoir entendu ce matin, que Christ vous aime toujours. Peu importe combien pécheur vous êtes, il vous aime toujours. Et vous voudriez que je me souvienne de vous dans la prière. Et là même où vous êtes, on ne peut vous appeler ici à l'autel. Il n'y en a pas, parce qu'elle est remplie d'enfants et ainsi de suite. Mais vous croyez que vous aimeriez accepter Christ en ce moment même comme votre Sauveur personnel. Et vous voulez que je me souvienne de vous dans un mot de prière? Lèveriez-vous la main et dire, j'accepte maintenant Christ comme mon Sauveur personnel, je veux qu'il me fasse part de sa bonté. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dans le fond là-bas. Au bout de l'allée, je vous ai vu aussi, que Dieu vous bénisse. Y en aurait-il un autre? Levez votre main, peu importe où vous êtes, les têtes inclinées. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu vous bénisse à l'arrière, sœur. Que Dieu vous bénisse à l'arrière, sœur. Vous n'avez pas levé votre main, mais je suis allé voir votre mari hier soir à l'hôpital. Il était en très mauvais état. Ne vous en faites pas, il ira très bien. Le Seigneur l'a touché, là même, hier soir. J'ai vu ce qui n'allait pas avec lui. Les docteurs ont tenté durant 4 jours de savoir, mais ils n'ont rien pu voir par les rayons X. Mais le Saint-Esprit va plus profondément que les rayons X. Il est Dieu. Il va bien, il rentrera à la maison. Et peut-être aujourd'hui. Très bien. Quelqu'un d'autre? Tout au fond, que Dieu vous bénisse. Je veux accepter Christ comme mon Sauveur personnel. Je veux être prêt. Je connais l'incertitude de mon foyer. Je connais l'incertitude de mon emploi. Je connais l'incertitude de ma vie. Je ne connais pas le jour de ma mort. Ce pourrait être aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est incertain. Mais je veux un son certain. Je crois l'avoir entendu aujourd'hui à travers l'Évangile que Jésus-Christ m'aime. Et je veux l'accepter comme mon Sauveur personnel. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé sa main et qui voudrait le faire? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Très bien, quelqu'un d'autre qui n'aurait pas encore levé sa main? Levez la main et dites, rappelez-vous de moi, frère Branham, dans la prière. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Père céleste, il y a un son certain que ces gens ont entendu. Il y en a beaucoup qui t'ont ce matin accepté comme leur Sauveur personnel. Maintenant, Père, je sais que c'est une tradition de faire venir les gens à l'autel pour prier, mais ce n'est pas scripturaire, parce que l'Écriture dit « Tous ceux qui crurent en lui furent baptisés ». Aussi, je prie, Père, que ceux qui ont cru en toi, que tu t'es révélé à eux dans ce son certain d'une voix, pour qu'ils sachent que c'est toi, et ils te veulent comme leur sauveur. Ils ont levé leurs mains pour que je me souvienne d'eux dans un mot de prière. Ô mon Dieu, sachant que le temps va s'arrêter, que les lumières vont s'éteindre, la lumière de la civilisation s'éteint, la lumière de l'Amérique s'éteint, la lumière des nations s'éteint, car la lumière du monde entre. Je prie, ô Dieu, que tu leur permettras de recevoir cette grande lumière. Nous réalisons que les ténèbres ne peuvent exister dans la présence de la lumière. La lumière est beaucoup plus intense que les ténèbres. Et laisse-leur savoir qu'il y a 10 heures à peine, ce bâtiment était recouvert de ténèbres, aucun siège ne pouvait être vu. C'était la nuit noire dans cette bâtisse il y a 10 heures. Mais le soleil s'est levé. Et où est passée la ténèbre, les ténèbres? Où sont-elles passées? Trouvez-les pour moi, on ne peut les trouver. Où en est sa chimie? Qu'est-il arrivé? On ne peut la trouver, elle n'est plus. Il en est ainsi des péchés maintenant. Là où il y a 20 minutes, les ténèbres recouvraient leur âme, mais ils t'ont accepté comme leur sauveur, et les ténèbres ont disparu. Vos péchés qui étaient nombreux ont été purifiés et sont maintenant aussi blancs que la neige. Vous ne pouvez plus les trouver, ils ne sont plus dans le livre, ils ne sont plus sur leur registre. Le sang de Jésus-Christ leur pardonne leurs péchés. Puissent-ils en retour se lever et être baptisés ce soir dans le nom de Jésus-Christ, faisant appel, invoquant le nom du Seigneur et recevant le Saint-Esprit. Accorde-leur, Père, je te les remets comme les trophées du message ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.